Dans la série La Révélation de Jésus-Christ, vous allez entendre un message de William Marion Branham, prêché le dimanche matin 4 décembre 1960 au Tabernacle Branham à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule La Révélation.
Christ reveals to you that he is the Son of God, and the works that he did, you do also. Not some other works, but the same works. He that believeth in me, St. John 14:7, he that believeth in me, the works that I do shall he also.
Amen.
Do the same works, and greater than this. Because Christ cannot preach the baptism of the Holy Ghost, but be greater. He cannot bring it to them because the Holy Ghost hadn't yet been given. But when Jesus came and sacrificed his life and the Holy Ghost returned, then they could impart eternal life to the people.
Amen.
That's the greater. But the signs and wonders, Jesus plainly said in Mark 16, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. How far? All the world. How many? Every creature. As long as the gospels be preached, these signs shall follow them that believe.
Amen.
And when that becomes a revelation, brethren, you're near the kingdom, then.
Merci beaucoup, frère Neville. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que l'on disait autrefois, « Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. » Nous sommes désolés de ne pas avoir de places assises pour tous ceux qui sont présents, et peut-être que cela va même empirer dans la semaine qui vient avec tous ces gens qui vont venir après avoir entendu parler des réunions. L'objet de cette réunion particulière était que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur cette mise en garde dans la conviction que l'Église de notre temps doit avoir ce message, car je crois que ce sont les messages les plus remarquables de la Bible, parce qu'ils révèlent Christ dans son Église en ce temps. Personne ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, ni où il va, à moins d'avoir quelque chose sur quoi baser ses pensées et sa foi. Ainsi, si l'Écriture nous a révélé Christ en ces derniers jours et la condition des temps dans lesquels nous vivons, cela nous ferait du bien de la sonder et de découvrir où nous en sommes. Nous sommes désolés que notre Église ne soit pas plus spacieuse. Nous espérons en avoir un jour une plus grande. Et ces 4 derniers jours, surtout en étudiant d'après la partie historique du livre de l'Apocalypse, j'ai trouvé des choses dont je n'avais jamais pensé qu'elles s'étaient réellement produites. Et cela m'a amené à l'idée qu'après ces 7 âges de l'Église, j'aimerais donner une autre série semblable pour présenter ensemble la véritable Église et la fausse Église, simplement à partir de l'histoire et de l'Écriture. Comme j'ai déjà essayé de le faire lors d'une prédication pour présenter la vraie vigne et la fausse vigne telles qu'elles nous apparaissent dans la Bible. Nous allons essayer de trouver quelques chaises pendant que j'y pense et que les gens essayent de s'asseoir. Et nous allons essayer de trouver plus de chaises encore afin de remplir les places du fond ici et là et d'autres encore tout autour. Et ainsi nous pourrons faire asseoir quelques personnes de plus durant les réunions. À ce propos, je voudrais demander à chacun de ceux qui sont réellement intéressés par ces choses de venir à chacune des réunions où nous exposerons ce sujet. Partie non enregistrée sur la bande originale, note de l'éditeur. Ce glorieux livre de la révélation des 7 âges de l'Église, mais je compte solennellement sur Dieu pour me le révéler au moment où j'y arriverai. L'histoire en général, mes sources viennent des historiens les plus éminents que je connaisse. En ce moment même, dans mon cabinet de travail, il y a 5 ou 6 commentaires, les 2 Babylones de Hyslop, le livre des martyrs de Fox, et d'autres bons livres comme par exemple l'Avant-Concile de Nicée, chacun d'eux a environ 400 pages. Et au sujet du Concile de Nicée, nous y trouvons toutes les références historiques possibles. Parce qu'à partir des bandes magnétiques, nous allons écrire un commentaire des 7 âges de l'Église que nous enverrons dans le monde entier si nous le pouvons. Car nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la fin. Mon cœur n'a jamais été autant touché par ces choses que depuis ces dernières élections. Alors j'ai vu où nous en étions, et le Saint-Esprit a commencé peu à peu à me révéler cela, afin d'avertir les gens et de dire ces choses. et je ne puis le faire dans une église comme celle-ci avec suffisamment d'ampleur. Et si je m'asseyais simplement pour écrire ce livre, je pense que si je monte en chair et que l'inspiration du Saint-Esprit parmi les chrétiens descende sur moi pour m'aider, alors je serai plus à même d'écrire ce livre après l'avoir extrait des bandes, car là nous en saisirons l'inspiration. Bien sûr, les livres seront un peu arrangés, parce qu'ici nous disons des choses que l'on ne peut mettre dans un livre, et avec mes répétitions cela perdrait trop de temps, mais dans le livre tout sera arrangé. Malgré tout, nous essayerons d'avoir ces prédications complètes sur bande. Chaque soir, les frères tiendront à disposition, juste à l'extérieur de la salle, les bandes, la littérature et tout le reste. Maintenant, il se peut que je ne puisse pas, comme nous avons décidé d'essayer de le faire pour la gloire de Dieu, apporter ces messages des sept églises ou les sept âges de l'Église en sept soirées, prenant une soirée pour chaque âge. Par exemple, lundi soir, Éphèse, mardi soir, Smyrne, mercredi soir, Pergame, jeudi soir, Thyatire, vendredi soir, Sardes et samedi soir, Philadelphie, dimanche matin et dimanche soir, Laodicée, l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Nous donnerons l'historique de l'Église originale, les écrivains et les historiens et les anges de ces âges, les messages et la marche de l'Église dans son évolution jusqu'à notre temps. Il est étonnant de voir comment chacune des prédictions de cette écriture cadre parfaitement, exactement avec l'histoire. Cela m'a tellement stupéfié que jusqu'à hier, j'ai lu jusqu'à ce que mes yeux semblaient me sortir de la tête. Et lorsque je suis sorti, j'ai dit à ma femme, « Je n'aurais jamais imaginé que cela pût être ainsi. » Voyez, tellement c'était glorieux. Peut-être qu'une fois, je ne pourrais pas terminer en une seule soirée le message à l'église en question. Si je ne peux pas le terminer le soir, alors nous reprendrons le lendemain matin à 10h. Cela sera annoncé chaque soir pour ceux qui veulent venir écouter la suite, car nous allons essayer de mettre tout cela sur bande. Pendant la journée, j'aurai donc des réunions de 10h à midi pour terminer le message pour qu'il puisse être enregistré. Nous avons annoncé qu'il n'y aurait pas de service de guérison, parce que nous essayons de rester dans l'expression prophétique de la Bible. Nous venons d'avoir un service de guérison ici récemment. Puis, quand ces réunions seront terminées, nous aurons de nouveau des services de guérison en ce lieu. Et maintenant, je voudrais que ceci soit parfaitement clair pour que tout le monde s'en souvienne. Ici, la parole pourra trancher, bousculer et nous donner à tous une bonne secouée. Mais il n'y a qu'une chose dont je sois responsable, c'est de prêcher la parole. Tout est là, ne s'en tenir qu'à la parole. Et souvent il arrivera, dans ces âges de l'Église, que je fasse des réflexions sur la dénomination de quelqu'un. Si cela arrive, ce n'est pas que je veuille me rendre désagréable, c'est seulement pour exprimer ce que dit l'Écriture et la révélation que j'en ai. Et si vous pensez que je suis dans l'erreur à ce propos, ne le retenez pas contre moi. Priez seulement que Dieu me montre ce qui est juste, car je désire vraiment être dans le vrai. Encore autre chose. Comprenant la responsabilité que j'ai dans une telle réunion d'enseigner les gens, le Saint-Esprit me tiendra pour responsable des paroles que je dis du haut de cette chair. Ainsi, vous voyez combien nous nous approchons avec sérieux de ces choses. J'aurais voulu exposer ces choses ailleurs, mais ceci étant un enseignement. À l'extérieur, dans les réunions d'évangélisation, chacun d'entre nous a une idée ou un certain discernement qui correspond à la connaissance d'un certain âge, puisque nous avons nos propres églises, ce qu'elles nous enseignent et que nous croyons. Je n'aime pas aller dans l'église de quelqu'un d'autre ou parmi les gens et dire des choses contraires à celles qui leur ont été enseignées. Car après tout, j'ai essayé d'exposer clairement, si un homme est catholique et compte sur l'église catholique pour son salut, il est perdu. S'il est baptiste et compte sur l'église baptiste, il est perdu. De même, le pentecôtiste qui compte sur l'église pentecôtiste pour le sauver, il est perdu. Et quelle que soit l'Église, mais si cette personne se repose sérieusement sur la foi dans l'œuvre achevée par Christ au calvaire, il est sauvé. Peu importe l'Église à laquelle il appartient, vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Et parfois, en faisant ceci, et puis je pense, dans ma petite salle où nous avons commencé il y a bien des années, ce n'était qu'un simple bâtiment en béton. Et c'est en quelque sorte un lieu sacré pour nous. Dans un certain sens, nous n'aimerions pas le voir transformé, parce que c'est là que Dieu a commencé à nous rencontrer, alors qu'il n'y avait même pas de plancher. Mais ce bâtiment devient de plus en plus vétuste et nous avons fait le projet de construire une salle sur l'emplacement de ce bâtiment. Et jusque-là, je pense que lorsque je reviens des campagnes où je veille à ne pas blesser les frères ou dans mes messages, ici j'ai le droit d'exprimer ma propre opinion du haut de la chair. Et si vous dites « on m'enseigne un peu différemment », nous invitons à venir ici quiconque désire venir. Personne ne paraisse ce lieu. Ici, c'est le tabernacle. Et quiconque veut venir, qu'il soit le bienvenu, qu'il vienne tout simplement. Je vous invite donc à apporter votre Bible à chaque réunion et aussi de quoi écrire. Et pour tous ces commentaires et le reste, je n'aurais pas pu apporter tous mes livres. Aussi, je n'ai fait que noter sur un papier des références à l'histoire et aux commentaires afin de n'avoir à lire que ces notes au lieu de devoir prendre des livres et chercher les pages. Cependant, quand il s'agit de l'Écriture, nous utiliserons la Bible. En ce qui concerne les commentaires ou l'histoire, nous donnerons les références et les explications. Ainsi, lors de l'élaboration du livre, nous pourrons les transcrire de manière que tout soit fait correctement. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour commencer tôt et vous laisser sortir le moins tard possible. Il va y avoir 8 jours de réunion, de ce dimanche-ci à dimanche prochain. Ce matin, je commencerai par le premier chapitre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. L'Apocalypse comprend 3 parties. Et les 3 premiers chapitres, c'est ce dont nous allons parler pendant ces 8 journées, alors qu'un seul âge d'Église pourrait nous prendre 1 mois. Nous ne toucherons d'ailleurs que les points culminants, comme on les appelle. Mais quand vous aurez le livre, il sera écrit avec plus de détails. Et dans l'Apocalypse, les 3 premiers chapitres traitent de l'Église, puis l'Église disparaît, et nous ne la voyons plus jusqu'au temps de la fin. Des chapitres 4 à 19, nous voyons Israël en tant que nation. Et de 19 à 22, les deux sont ensemble, et il y a les plaies, les avertissements, etc. à la fin. Il comprend 3 parties, et nous prenons les 3 premiers chapitres concernant l'Église et l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Au début, cela vous paraîtra peut-être un peu aride, parce que nous devrons revenir en arrière et poser un fondement. J'ai prié, étudié et fait tout ce que je pouvais pour essayer de chercher le sentiment du Saint-Esprit, afin d'établir ceci de manière que les gens puissent le comprendre, et que vous puissiez, en le voyant, être éclairés et venir plus proche de Christ, car nous sommes au temps de la fin. C'était vraiment merveilleux en étudiant l'histoire, de voir comment cette Église a commencé, comment elle s'est relâchée et ce qui est arrivé, de voir cette petite semence de Dieu cheminer à travers chacun de ses âges. À un certain moment, elle est même presque complètement sortie. Demain soir, nous commencerons et il y aura ici un tableau noir pour que je puisse vous enseigner à partir du tableau. Je crois qu'il y a un moniteur de l'école du dimanche qui a un tableau noir. Je vois d'ailleurs ce tableau là au fond. Je vais demander au concierge de me l'apporter, de le mettre ici en avant. Je pourrai ainsi enseigner à partir de ce tableau noir et tout écrire pour que vous soyez sûr et que vous puissiez dessiner et noter exactement sur votre feuille. Mais je veux juste dire encore ceci avant de commencer. Nous allons voir le début de l'âge de l'Église, les apôtres, les doctrines, les choses qu'ils enseignaient et les principes de la Bible. Puis nous verrons comment dans cette Église, à la seconde génération d'apôtres, le véritable enseignement a commencé à s'estomper. À la 3e génération, elle en est déjà bien éloignée. À la 4e génération, cela s'est estompé au point que l'Église est devenue tiède. Une Église remplie du Saint-Esprit, je dis cela avec un saint respect pour la religion de tout homme, du commencement jusqu'à aujourd'hui, la vraie, la véritable Église a été une Église de Pentecôte. C'est vrai, Dieu a mis cette Église à part. Je me suis souvent demandé ce que voulait dire Jésus lorsqu'il fit cette remarque disant « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je me suis souvent demandé ce que cela signifiait, mais maintenant je comprends. La semaine dernière, nous avons eu une réunion à Shreveport, en Louisiane, la plus grande réunion spirituelle à laquelle je sois jamais allé dans ma vie. J'avais quelques jours de congé et je suis descendu pour chasser dans le Kentucky avec un des frères Wood, l'un des diacres de l'Église, ou plutôt l'un de ses administrateurs, et nous sommes allés à la forêt. J'avais tiré le premier écureuil et je me disais, je vais attendre, parce que quelqu'un passait avec des chiens. Et je me disais, je vais attendre jusqu'à ce que les écureuils ressortent de leurs trous. Ils sont là-haut dans les arbres, dans leurs trous, et sont cachés pour le moment. Je me disais, quand ils sortiront, je vais rester assis là et attendre. Le froid était vraiment glacial, les oreilles me brûlaient. Vous savez, ce vent aigre qui pénètre par toutes les ouvertures. Je me disais, je vais attendre que les écureuils ressortent. Je n'étais pas si tôt assis que le Saint-Esprit me dit, « Lève-toi et va à l'endroit que tu appelles le creux du sportif, et là je te parlerai. » Et je suis monté à cet endroit que j'avais nommé le creux du sportif. Si je donne un nom à ces trous, c'est pour savoir où je suis. Je l'avais nommé le creux du sportif parce que j'avais vu là 16 écureuils sur un seul arbre. J'avais tiré le maximum légal, laissé le reste, et j'étais parti. C'est cela le sport, la chose à faire. C'est pourquoi j'avais appelé cet endroit le creux du sportif. Il s'est adressé ainsi à moi en disant, « L'endroit que tu as appelé le creux du sportif, ce n'est pas lui qui avait donné ce nom, mais moi. » Alors, je suis allé au bord de ce creux et me suis assis sous un chêne blanc. J'ai attendu environ une demi-heure et rien n'arriva. Je m'étendis à même le sol, prosterné, les mains étendues. Alors il me parla. Quand il le fit, la parole qu'il me révéla, sur ce passage même que nous allons étudier ce matin, je ne l'avais jamais de toute ma vie comprise auparavant. Ensuite, quand je suis allé à Shreveport en Louisiane, Mrs. Schrader, avait des dons. Il y a bien des années, l'ange du Seigneur m'était apparu au bord de la rivière pour la première fois. Il était apparu dans cette lumière, et ces paroles qu'il avait prononcées là, 11 années plus tard, lorsque je pénétrais dans cette réunion, cette femme se leva, parla en langue et interpréta. C'était mot pour mot la même chose que l'ange avait dite. Et cette même femme, quand je pénétrais dans le tabernacle de Shreveport, là où nous étions, le Life Tabernacle, le Saint-Esprit descendit sur cette femme et dit mot pour mot ce qu'il m'avait dit là-haut sur la colline. C'est alors que le Saint-Esprit commença à agir et donna l'interprétation, prédisant par révélation, par prophétie, les choses qui devaient arriver lors de la réunion de la soirée suivante, et jamais cela n'a manqué de se réaliser. Avant cela, une femme se leva dans la réunion, une baptiste. Elle était venue là sans intention particulière. Elle se tenait au milieu de l'assemblée, et le Saint-Esprit descendit sur elle, et elle commença à parler en langue. C'était une baptiste de la première église baptiste de Shreveport. Elle ne se rendit pas compte de ce qu'elle avait fait. Et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation disant, « Ainsi dit le Seigneur, dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. » Cela s'est réalisé de façon parfaite. Un baptiste de Meridian en Mississippi s'apprêtait à mettre la main sur son réfrigérateur pour y prendre quelque chose. Lorsque l'esprit de Dieu vint sur lui, il se mit à parler en langue, ne sachant pas ce qu'il faisait. Et avant qu'il puisse comprendre ce qu'il faisait, le Saint-Esprit lui parla de nouveau, disant, « Va à Shreveport en Louisiane, mon serviteur te dira ce que tu dois faire. » Cet homme vint, disant, « Je n'y comprends rien, ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Oh, nous vivons dans les derniers jours, juste avant la venue du Seigneur. La petite église de Pentecôte a toujours été une minorité. » Je ne parle pas des dénominations pentecôtistes, non, je parle de ceux qui ont l'expérience de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une organisation, la Pentecôte est une expérience qui arrive à tous ceux qui le désirent. Catholiques, juifs, prosélytes, méthodistes, baptistes, quiconque le désire qu'il vienne, c'est une expérience personnelle. Dieu ne traite pas avec une dénomination, il ne traite pas non plus avec les nations en tant que race ou peuple, il traite avec les individus. Quiconque veut, qu'il soit blanc, noir, jaune, brun, méthodiste, baptiste, protestant, catholique, quel qu'il soit, qu'il vienne. Quiconque, je suis si heureux qu'il agisse de cette manière. Je dirais comme quelqu'un dit une fois, je préfère et qu'il ait dit cela plutôt que de nommer mon propre nom, disant que William Branham vienne, car il pourrait y avoir d'autres William Branham. Mais lorsqu'il dit quiconque, je sais que cela m'inclut, moi aussi. C'est ainsi que nous pouvons tous le ressentir. Quiconque le veut, qu'il vienne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent là-dehors, dans les hôtels et les motels, et qui viennent du monde entier, vous voyez. Il y en a qui viennent d'Irlande et d'autres endroits, attendant que je puisse les voir. Mais je ne peux pas m'occuper d'eux en ce moment. Il est nécessaire que je donne mon temps à ceux-ci. Vous comprenez. Quand je reviens de voyage, je dois généralement commencer par m'occuper de ces gens, car ils seront présents au rendez-vous fixé. Mais pour le moment, nous devons les laisser à cause de ceci. Encore une chose, avant que nous commencions à étudier ce livre, au commencement, il y avait une église de Pentecôte, et cette église de Pentecôte est sortie dans la puissance de l'Esprit et a écrit le livre des Actes. Au second tour, elle a commencé à décliner. L'église est devenue formaliste. L'âge de la seconde église était réellement formaliste. Mais cette petite semence de Pentecôte a continué à se développer spirituellement. Puis, elle est entrée dans l'âge des ténèbres qui a duré environ 1400 ans et a passé par de grandes persécutions. Mais ce petit groupe de Pentecôte continue à vivre à travers cela. Comment il a survécu, ne me le demandez pas. C'était la main de Dieu, elle seule qui pouvait le faire. Parce qu'il les clouait à des poteaux, il prenait les hommes et les renversait sur une souche et prenait les chevilles de bois et les enfonçait dans les jambes et laissait les animaux, les chiens, les manger par le dos, faisant sortir les intestins avant même qu'ils ne meurent. Il prenait les femmes, leur coupait les seins comme cela, leurs seins droits, les laissait perdre leur sang jusqu'à ce que la vie les quitte. Il prenait les bébés des femmes enceintes et les donnait à manger aux chiens et aux porcs sous leur regard. Le soi-disant christianisme. Mais la Bible dit, et Jésus dit, il viendra un temps où ils vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. Vous voyez? Mais cette chose a rampé jusqu'à l'âge suivant. Puis elle s'est finalement manifestée à la Réformation. Elle s'est écartée de plus en plus de l'esprit, jusqu'à ce que ce dernier âge même où ils sont prêts à s'unir et à faire une image à la bête. Mais cet humble esprit vivra dans le cœur des gens jusqu'à ce que Jésus vienne. Il faut qu'il en soit ainsi. Nous allons faire ressortir cette pensée par des schémas et le prouver par l'histoire et tout le reste, et vous montrer que c'est exactement comme cela. Lisez vous-même l'histoire. Voyez ce que la Bible dit et ce que l'histoire dit. Voyez comme tout correspond exactement. Oh! Puissions-nous ne pas considérer ceci comme une simple conférence, mais puissions-nous prendre solennellement, avec tout le sérieux possible, les avertissements du Saint-Esprit et prier jour et nuit. Ne laissez rien vous arrêter de prier. Nous allons entrer et ramener à la surface la vie de ces grands hommes d'autrefois, et nous verrons comment ils se sont sacrifiés. Vous verrez combien peu vous avez fait. Cela me fait honte quelquefois, quand je pense... comme nous recherchons une vie facile, alors qu'eux avaient la vie si difficile. Ils allèrent ça et là, dit Paul dans Hébreux 11, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, que sera notre témoignage à côté du leur, et nous qui exigeons une vie facile. Maintenant, avec respect, avant d'ouvrir le livre, j'aimerais que tous ceux d'entre nous qui le peuvent se lèvent pour un moment de prière, avec sincérité de cœur, murmurer une prière à Dieu. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et dispensateur de tout don parfait et bon, nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner, tout d'abord notre indifférence, tous nos péchés et nos transgressions contre toi, contre les autres et contre notre prochain. Puisse ce petit moment de réunion non seulement édifier nos âmes, mais aussi nous éclairer de telle sorte et nous inspirer tellement que nous irons parler aux autres. Que ce soit un temps de reconsécration, nous unissant au corps entier de Christ et nous tenant prêts pour l'enlèvement. Ô Dieu notre Père, que ce ne soit pas mes propres sentiments, sachant que ton serviteur et tous les autres serviteurs sont insuffisants pour cette grande tâche. Comprenant combien ces grands hommes du passé ont pris à cœur d'essayer de révéler cela ou de commenter la glorieuse révélation. Nous comprenons qu'encore plus qu'eux, nous sommes insuffisants, mais toi, tu es notre tout suffisant. Et je te prie, Père Céleste, pour que tu fasses quelque chose de particulier pendant ces moments, que le Saint-Esprit ait la prééminence dans chaque cœur. Circoncis les lèvres qui parlent et les oreilles qui entendent. Et quand tout sera terminé, et que nous te consacrerons cela, puissions-nous franchir le seuil de cette maison en disant « Il était bon pour nous d'être ici ». Le Saint-Esprit nous a parlé lorsque nous étions assis là, et désormais nous sommes décidés à faire tout ce que nous pouvons, tandis que la lumière du soir brille. Accorde-le-nous, ô Seigneur. Puissent les hommes et les femmes se raffermir durant cette réunion. Puisses-tu susciter des personnes qui parlent en langue et qui interprètent. Puisses-tu susciter des dons de prophétie, des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, etc., pour que l'Église puisse être édifiée. Suscite des missionnaires pour aller au loin dans les champs missionnaires apporter ce glorieux évangile. Où que la parole aille, qu'elle tombe dans la bonne terre, un grain en produisant 100, car nous croyons que nous sommes à la fin de l'âge et la consommation de ce siècle est proche. Veuille nous accorder ces choses, ô Père, et par-dessus tout, aide-moi, Seigneur, moi qui en ai particulièrement besoin, car je te le demande en me consacrant à toi pour ces réunions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une sœur parle en langue, un frère donne l'interprétation, note de l'éditeur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, nous sommes si heureux de savoir que ton Esprit demeure parmi nous. Il est toujours véritable et ne prononce jamais une parole mensongère. Et maintenant, Père, confirme encore ta parole alors que nous la lisons pour ta gloire, et que chaque cœur, comme tu l'as dit, soit préparé afin d'être prêt, car quelque chose va arriver. Peut-être les gens vont-ils recevoir le dernier avertissement pour se détourner des choses qu'ils font maintenant et revenir à la voie de la justice. Nous te remercions, Dieu Saint, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Prenons maintenant le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Et tout d'abord, je veux lire les trois premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifié en l'envoyant par son ange, son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Comme je l'ai dit auparavant, maintenant nous allons essayer de faire ici un petit arrêt dans la lecture de ce livre pour examiner ce que nous dit l'histoire. Et chaque fois que vous me voyez me reporter aux notes que j'ai écrites ici, ce sont des choses que j'ai tirées de commentaires ou d'ailleurs. L'écrivain de ce livre est Jean, Saint Jean le Divin, qui a écrit cela aux générations futures. C'est adressé aux sept anges des sept périodes distinctes de l'âge chrétien. L'âge qui va des jours des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. Les âges apparaissent chacun successivement depuis l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Chaque âge de l'Église est décrit dans son état spirituel. Lorsque l'Esprit parle, chaque âge de l'Église peut se considérer lui-même à la lumière de l'Écriture et de l'Esprit. Chaque âge a porté la vraie vigne de Christ, la Vierge sage, et chaque âge a aussi porté la vigne greffée, la vierge folle. Concernant la vie de Jean, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse, et y est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez, c'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie de Jean ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Ce n'était pas une prophétie donnée par lui, mais la glorification solennelle du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de Saint Jean le Divin, mais la révélation de Christ le Seigneur. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Pourtant, il relate le commencement et la fin de la dispensation des évangiles. Les érudits de la Bible sont d'accord à ce sujet. Les lettres aux sept âges de l'Église ont été écrites prophétiquement aux âges futurs. Paul a décrit la vie et la gloire des sept églises présentes de son temps. Jean a décrit la vie et la gloire des sept églises du futur. Il s'adressait aux sept pasteurs ou messagers aussi directement qu'à tous les chrétiens qui étaient sous le ministère de ces sept anges différents. Le livre de l'Apocalypse signifie « livre de la révélation » en anglais, note de l'éditeur. Nous allons partager notre message entre ce matin et ce soir. Nous essayerons d'arrêter vers 11h, 11h30 ou quelque chose comme cela. Puis nous recommencerons ce soir à 7h. Maintenant, voici le contenu de ce premier chapitre. Le premier verset, eh bien, il parle de lui-même parce qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Au deuxième verset, nous voyons que Jean est l'écrivain et le serviteur. Au troisième verset, les bénédictions sont prononcées. Du quatrième au sixième verset, c'est la salutation à l'Église. Au septième verset, les annonces. Au huitième verset, la divinité suprême de Jésus-Christ. Du neuvième au vingtième verset, c'est la vision de Patmos. Il y a aussi les versets 14 à 16 qui décrivent la septuple gloire de sa personne. Oh, qu'il est beau de voir Christ dans sa septuple personnalité de son être, dans sa glorieuse résurrection. Et le titre décrit le personnage, Révélation de Jésus-Christ. Non pas la révélation de Saint Jean le Divin, mais la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le mot grec pour révélation est apocalypse, qui signifie dévoilement. J'ai pris ce mot et j'en ai étudié le sens. L'Apocalypse, c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue et l'a couverte d'un voile. Puis il vient déchirer ce voile, révélant ce qui se trouvait dessous. C'est un dévoilement. Et ce livre n'est pas tant le dévoilement de la personne de Jésus-Christ, pourtant il parle bien de sa divinité, de sa septuple personnalité et aussi des choses qu'il est, sacrificateur, roi, etc. Mais c'est la révélation de ses œuvres futures dans ces sept âges à venir de l'Église. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Personne ne les connaîtrait, et à ce moment-là, même le Fils ne les connaissait pas. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il a reçu de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Alors il est revenu apporter ce message à l'Église, le message de sa venue et de l'état de ses Églises tout au long des âges. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, car il ne les connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que dit l'Écriture ici ? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, à Christ. Ainsi, Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ, et il envoya son ange à Jean pour indiquer ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Oh, c'est admirablement exposé. Or, dans cet âge glorieux qui vient, et que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ, ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie Église. La vraie Église commence le jour de la Pentecôte. Il n'y a aucun théologien érudit de la Bible ou historien qui puisse jamais dire que l'Église ait commencé au jour de Martin Luther, de Wesley, de l'âge catholique ou à tout autre âge. L'Église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. C'était le commencement. Aussi, lors d'une discussion avec qui que ce soit, restez à cette porte de la Pentecôte et ils ne pourront aller nulle part ailleurs. C'est comme lorsque vous mettez un lapin dans un pré. Vous savez où se trouve chaque trou. Vous les bouchez tous, il devra revenir par l'endroit où il est entré la première fois. Eh bien, c'est ainsi que vous devez revenir au commencement, à l'origine. Lorsque quelqu'un parle des églises et des âges des églises et des œuvres du Saint-Esprit, il faut revenir là parce que Dieu est infini et qu'il est le Tout-Puissant. Puisqu'il est infini, il ne peut faire une chose ici et faire le contraire là. Il est tenu de faire chaque fois comme il a fait la première fois. Comme Pierre dit, le jour où les païens reçurent le Saint-Esprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Jésus, étant sur terre, a dit, quelqu'un était venu dire, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Jésus répondit, « Celui qui a fait l'homme a aussi fait la femme. C'est pourquoi l'homme quittera... » Ils dirent, « Mais Moïse nous a donné la lettre de divorce. » Mais Jésus dit, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournez au commencement. » Par conséquent, si nous parlons sur un âge de l'Église, nous devons revenir au commencement, laissant de côté tout ce que les hommes ont dit au cours de l'âge. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a mis son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Bienheureux celui qui lit et maudit celui qui retranche quelque chose du livre. C'est le seul livre que Christ ait écrit lui-même dans toute la Bible. Les 10 commandements ont été écrits de ses doigts, c'est vrai. Les Juifs se sont appuyés là-dessus, et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. S'il y a un livre de la Bible que Satan hait, c'est l'Apocalypse. Il déteste toute l'Écriture, tout le canon des Écritures. Mais il y a deux choses qu'il méprise encore plus, c'est l'Apocalypse et la Genèse. Parce que la Genèse raconte le commencement et que l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver le dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Après cela, lui, le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans les temps de feu. C'est pourquoi il s'attaquera de préférence au livre de la Genèse. Mettant en doute son authenticité, il dira « Ce livre n'est pas authentique » et il troublera l'esprit des gens. Considérez comment le diable traite ses livres de la Genèse et de l'Apocalypse, le premier et le dernier. Le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il en contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Pratiquement, personne ne peut le comprendre. Ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. Dans le Deutéronome, il est écrit « Les choses cachées appartiennent au Seigneur ». C'est vrai. Et il révèle à nous, ses enfants, ces choses cachées. Les esprits charnels ne peuvent comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture, parce qu'elles sont folies pour eux. Mais ceux qui aiment la parole de Dieu, l'Église, c'est pour eux que ce livre a été écrit. La révélation de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, et ainsi tout le long aux églises. La révélation de Jésus-Christ à l'église. J'aime cela. Et remarquez que c'est aussi l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement complet. Et il est placé au bon endroit, à la fin de la Bible. La révélation quant à sa situation est placée à la fin, avec une bénédiction pour celui qui lit et qui entend, et une malédiction pour celui qui ajoute ou qui retranche. C'est le canon complet de l'Écriture. Oh, c'est l'absolu. Rien ne peut être ajouté. Et lorsqu'un homme essaye d'en retrancher ou d'y ajouter quoi que ce soit, Dieu dit qu'il retranchera sa part du livre de vie. Voyez, s'il y retranche, Dieu enlèvera sa part du livre. C'est pourquoi, lorsque nous voyons la révélation multiple de notre Seigneur, qui il est, ce qu'il est, si quelqu'un ajoute quelque chose à cela ou en retranche quoi que ce soit, c'est de la fausse prophétie. Beaucoup ont essayé de dire qu'ils avaient reçu quelque chose de plus après cela. Mais ceci est la révélation complète du Seigneur Jésus dans les âges de son Église et dans son jour. Une révélation de notre Seigneur. Or, le mot grec « dévoilé » signifie que quelque chose qui avait été caché est révélé. C'est la révélation de Christ. Maintenant, examinons le deuxième verset. Le premier verset est le dévoilement de Christ, la révélation, le dévoilement. Oh, comme le dernier âge et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres. Ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour avoir la révélation, et encore n'a-t-il pas compris parce que l'histoire ne s'était pas encore faite. Le contexte de ce livre était destiné aux 7 églises d'Asie mineure qui existaient alors. Il était destiné à ces 7 églises. À cette époque, il y avait plus d'églises que ces 7-là, mais le caractère de chacune de ces églises correspondait au caractère de l'âge de l'église du même nom. Par exemple, Éphèse avait un certain trait de caractère, Smyrne, Pergame et toutes les autres. Chacune de ces églises avait en elle un trait de caractère qui réapparaîtrait dans les âges à venir. Comment certains peuvent-ils constater l'application spirituelle des Écritures et en dénier l'inspiration? vos actions même, vos motivations même, les objectifs des gens, tout prouve que l'Écriture est inspirée. Voir comment Dieu met en application ces choses. Simplement, ce que vous faites est ici un type de quelque chose. Comme par exemple, Abraham offrant Isaac, son fils unique. Voilà un type de Dieu donnant son fils des centaines d'années plus tard. Lorsque Joseph fut vendu et mis en prison, haï de ses frères et aimé de son père, c'est un type de Jésus. Nous pouvons voir comment l'Esprit a travaillé par Joseph, un simple homme, symbolisant parfaitement la vie de Christ. Quand David fut rejeté comme roi et qu'il montait sur la montagne, le mont des Oliviers, regardant en arrière, il pleura comme un roi rejeté. Quelques centaines d'années après cela, le fils de David montait la même colline comme un roi rejeté pleurant sur Jérusalem. L'Esprit manifesté dans le type et dans la réalité. Oh, pouvez-vous voir la grande église pentecôtiste de ces temps de la fin? Pouvez-vous voir comment Dieu l'a inaugurée le jour de la Pentecôte? Cet esprit aurait dû rester dans l'église tout au long des âges. Mais ils sont devenus formalistes et indifférents. Ils voulaient une dénomination, ils voulaient unir l'église et l'État. Et finalement, ils l'ont fait, amenant des centaines d'années de persécution. Puis vint la réforme et ils sont sortis, mais chaque année ils ont enlevé de l'esprit et ont ajouté de la chair, s'éloignant de l'esprit et ajoutant du charnel, jusqu'à maintenant où ils sont prêts à recommencer. Nous vivons dans les dernières heures de la fin, l'achèvement de l'Église. Nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée. Bien, le premier verset du premier chapitre a été présenté à Jean. Mais qui est l'écrivain? Jean? Il ne s'agit pas d'une révélation de Jean. Nous savons que ce ne l'était pas, parce que c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Jean avait été choisi comme disciple, et le livre lui-même nous révèle la chose. C'est Jésus-Christ qui est révélé, et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean. Nous ne savons pas qui était l'ange. La Bible ne nous dit pas qui était l'ange. Mais nous savons que c'était un prophète, parce que plus loin, la Bible dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses qui doivent venir bientôt. » Puis nous découvrons que lorsque Jean a commencé à adorer cet ange, l'ange dit, « Garde-toi de le faire. » C'est l'Apocalypse, chapitre 22, et il dit, « Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères les prophètes. » Ça aurait pu être Élie, ça aurait pu être l'un des prophètes. Jean était apôtre, mais ce prophète fut envoyé, et Jean étant un apôtre, considérez le caractère de ses autres épîtres. C'est la preuve que ce n'était pas Jean qui l'a écrite, parce qu'elle n'est pas à la manière de Jean. Prenez un Jean et deux Jean, et le reste, et lisez-les. Observez-en le caractère, puis observez le caractère de l'Apocalypse. Jean écrivait, et il était un apôtre, mais ici, c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne totalement différente, vous voyez. Ce n'était pas les écrits de Jean, ce n'était pas la révélation de Jean, c'était la révélation par Dieu de Jésus-Christ aux Églises. Jean ne faisait qu'écrire, c'est le livre qui le déclare. Or, cela n'était pas adressé à Jean, c'était adressé à l'Église. Jean, en ce temps-là, était le pasteur de l'Église d'Éphèse. Donc le livre est adressé à l'Église et non pas à Jean. Maintenant, lisons le troisième verset. Il annonce les bénédictions. Écoutez, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quel temps est-il proche? Le temps où ces choses s'accomplissent, lorsque cette révélation de Jésus-Christ est achevée en chaque âge de l'Église. Voici la raison pour laquelle il a écrit cela de cette manière. Ils attendaient sa venue. Si Jean avait reçu la révélation que Jésus reviendrait aussitôt que ses âges de l'Église seraient terminés, c'est ce que Jean pensait. S'il avait su, s'il lui avait été révélé qu'il y aurait sept longs âges de l'Église ou plusieurs centaines d'années, alors il n'aurait plus eu aucune raison d'attendre. Ils auraient simplement vécu leur âge. C'est pourquoi Dieu parla et cela ne leur fut pas révélé. Martin Luther ne reçut pas la révélation des choses que John Wesley connut de l'Écriture. Les baptistes n'ont pas reçu ce que les pentecôtistes connaissent de l'Écriture, parce que c'est dans un âge différent, c'est une époque différente, et Dieu révèle ces choses juste en leur saison. Oh, vous ne pouvez planter du blé au printemps et le récolter au même moment. Vous plantez une semence et elle croît jusqu'à maturité. Dieu plante sa parole et celle-ci croît jusqu'à son accomplissement. Et alors nous regardons en arrière et nous disons, c'était bien cela. Oui, c'est sûr, nous la comprenons après qu'elle ait été révélée. Maintenant, bienheureux celui. Dans la parole, il y a l'annonce des bénédictions, troisième verset, pour ceux qui lisent ou entendent ces mystères. La pensée de la chair fuit la parole, parce qu'elle ne sait rien à son sujet. Il n'est pas étonnant que la pensée de la chair ne la connaisse pas, puisque c'est Satan qui est dans cette pensée charnelle. Satan est dévoilé et Satan ne voudrait pas être dévoilé. Avez-vous remarqué combien c'est terrible pour Satan de penser qu'il va être dévoilé? Observez dans une réunion comment les gens agissent. Vous pouvez observer cela lors de mes réunions. Juste avant que Satan ne soit dévoilé chez certaines personnes, vous verrez leur visage changer. Ils ne savent qu'en penser. Soudain, le Saint-Esprit descend et dévoile ce démon. Oh, combien il hait cette sorte de rencontre! C'est pourquoi nous avons un tel combat, parce que la parole de Dieu met à nu le diable. Voyez, elle nous dit ce qu'il est. Par exemple, vous dites sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Cette femme assise là, son nom est Miss Jones, elle vient de tel endroit. » Qu'est-ce que cela produit? Cela saisit son esprit et le place dans une certaine position. D'où me connaissez-vous? Cet homme ne me connaît pas. Ce doit donc être quelque esprit. Quelle sorte d'esprit est-ce? C'est l'Esprit de Dieu. Ah oui? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous avez la tuberculose, le cancer, etc. Mais ainsi dit le Seigneur. Oh, combien Satan déteste cela, parce qu'il est mis à nu. Mais la pensée de la chair continue à regarder et dit, lecture de pensée, télépathie. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est de la folie. Mais pour ceux qui savent ce que c'est, oh, quelle bénédiction c'est! Qu'est-ce que c'est? Une révélation. Une révélation venant de qui? De l'homme qui prêche? Non, mais de Jésus-Christ dans ce dernier âge de l'Église, se révélant comme il l'avait promis vouloir le faire. C'est une révélation, vous comprenez? Mais Satan déteste cela. Oh, combien il le hait! Il est exposé et ses plans sont dévoilés. Satan hait les révélations de la Genèse. Nous l'avons écrit ici, c'est parfaitement vrai. Mais pourquoi déteste-t-il une révélation? Pourquoi est-il si opposé à l'Apocalypse? C'est parce que le canon entier de la parole de Dieu et l'Église de Dieu sont solennellement établis sur la révélation. Cela ne peut se faire par le moyen d'une école. Qu'importe le nombre de bons séminaires que nous ayons, ils restent loin derrière dans les âges qui s'effacent. La Bible et l'Église sont une révélation totale. J'ai ici quelques références de l'Écriture. Jetons un coup d'œil dans Matthieu 16, 18, pour voir où il est parlé de révélation dans les Écritures. Il redescendait de la montagne, et Jésus répondant lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. » L'Église catholique dit, « Il l'a bâti sur Pierre. » Eh bien, c'est vraiment la pensée de la chair. Vous ne pouvez pas imaginer un croyant spirituel comprendre la chose de cette manière, que Dieu, avec son propre Fils se tenant là, veuille édifier son Église sur un homme commun, ordinaire, né dans le péché. Cet homme l'a prouvé, lui qui, avec ce même esprit sur lui, se mit à jurer et à renier Jésus en face. Ce n'était donc pas Pierre, ni un rocher quelconque posé là, comme le proclament quelques églises. Ce n'était pas un rocher, parce que Pierre, le rocher dont il parlait ici n'était ni Pierre ni lui-même. Beaucoup de protestants essayent de dire, c'était Jésus, c'est sur lui-même qu'il a bâti l'Église. Non, c'est encore faux. Si vous remarquez, ce n'était ni sur Jésus, ni sur Pierre, c'était sur la révélation. Car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui a donné cette révélation. Regardez, je vais vous poser une question. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucune écriture. Et les deux fils, Caïn et Abel, tous deux voulurent offrir un sacrifice et trouver la faveur de Dieu. Pour cela, Caïn et Abel construisirent un autel. Eh bien, si c'est tout ce que Dieu exigeait, Dieu aurait été injuste de condamner Caïn. Caïn offrit donc un sacrifice. Abel fit de même. Tous les deux offrirent un sacrifice. Caïn adora, Abel aussi. Caïn fit toutes choses exactement comme Abel. Si donc aller à l'église, appartenir à l'église, faire des sacrifices, prier et adorer Dieu est tout ce que Dieu exige, alors Dieu aurait été injuste en condamnant Caïn pour avoir fait exactement ce qu'il lui avait dit de faire. Mais voyez-vous, Abel, par une révélation, savait que ce n'était pas à cause des fruits qu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden, comme le pensent beaucoup d'esprits charnels aujourd'hui. Caïn offrit les fruits du pays parce qu'il pensait que c'était cela qui les avait chassés du jardin d'Éden. Considérez cette révélation. Voyez le désaccord avec la parole. Voyez comme cela fait du mal aujourd'hui. Mais ce n'était pas à cause d'un fruit qu'ils avaient été chassés. Ève n'a jamais mangé de pommes. Certes non. Comment, en mangeant des pommes, aurait-elle pu comprendre qu'elle était nue? C'est du domaine de la vie sexuelle, forcément. Bien, nous abordons cela comme une étude. Il n'avait aucune écriture. Certains disent, pourtant elle a dit, j'ai formé un fils avec l'aide de l'Éternel. C'est certain, une prostituée le dira aussi, car toute vie vient de Dieu. Mais c'était une vie pervertie. Considérez la nature de ce garçon. Il était de son père le diable, dont il avait les attributs, la haine, la méchanceté, le meurtre. Vous voyez? En ce qui concerne Abel, leurs parents leur avaient sans doute raconté comment les arbres portaient du fruit, etc. Mais Abel eut la révélation. Abel alla chercher un agneau pour avoir le sang. Il lui ôta la vie. Ce n'était pas un arbre fruitier donnant des pommes, des bananes ou des poires. C'est par une révélation spirituelle qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, Dieu lui en rendant témoignage, car cela lui fut révélé par la foi. Hébreux chapitre 11. C'est ainsi que Dieu bâtit son Église. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans un séminaire. Personne ne te l'a enseigné nulle part, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà, tout repose sur la révélation, l'Église tout entière, sur ce rocher de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai. Vous pouvez prendre ce que dit le pasteur, vous pouvez prendre ce que le séminaire enseigne, vous pouvez prendre ce que l'Église dit, et cela n'est toujours pas juste. Vous pourrez être capable d'expliquer les choses avec éloquence, mais tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ est son Fils et que vous avez été sauvés au travers de son sang, c'est sur cette révélation-ci il est mon Sauveur. Sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ainsi, vous voyez pourquoi Satan est tellement opposé au livre de l'Apocalypse. Satan est opposé à toute révélation spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui il est tellement opposé au ministère. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Christ. Laissez l'Église continuer avec ses grandes dénominations et organisations, ses petits messages fleuris et tout le reste. Laissez-les faire. Satan ne les troublera pas. Ils n'ont pas de problème. Tout le monde leur tape amicalement sur l'épaule. Mais un temps vient où Dieu, par le Saint-Esprit, révèle de nouveau Christ dans l'Église avec puissance et des démonstrations de guérison des malades, accomplissant les signes qu'il avait dit devoir accompagner les croyants. Alors, Satan se retourne dans son lit et part en guerre contre cela. Jusqu'à ce moment, Satan ne s'occupait pas du fait que vous vous joigniez à telle ou telle Église, peu lui importait. Mais lorsque Christ vous révèle qu'il est le Fils de Dieu et que les œuvres qu'il a faites, vous les ferez aussi, pas d'autres œuvres, mais les mêmes œuvres. Il dit dans Jean 14, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. » Car Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit, qui serait quelque chose de plus grand. Il ne pouvait pas le leur apporter, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais lorsque Jésus livra sa vie en sacrifice, et que le Saint-Esprit descendit, alors ils purent communiquer la vie éternelle au peuple. C'est cela qui était plus grand. Pour ce qui est des signes et des miracles, Jésus a dit clairement dans Marc 16, Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. À combien? À toute la création. Aussi longtemps que l'Évangile sera prêché, ces signes suivront ceux qui auront cru. Et quand cela devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du royaume. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Parce que si un homme ou une femme s'est jamais trouvé seul au fond d'un désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui par le Saint-Esprit, plus rien ne peut l'ébranler. Il est aussi saint et ferme que possible. Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Elle bouleverse ses plans. La nature de ce livre montre que ce n'est pas Jean qui l'a écrit. C'est vrai, il en est l'écrivain, mais non l'inspirateur. Ce livre a été écrit sous l'inspiration de Dieu. Bien, voyons ce qu'il dit maintenant. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Quel temps? Celui de la révélation complète de Jésus-Christ à ses églises. Et tandis que les âges se déroulent, cela leur est simplement révélé. Maintenant, nous sommes arrivés juste à la fin des temps. Et nous sommes vraiment à la fin du monde. Nous sommes à la consommation de l'histoire du monde. Et avant que cette semaine ne soit terminée, si Dieu est avec nous pour nous aider, nous prouverons que nous sommes à l'heure de l'achèvement des âges de l'Église. Nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée, la consommation de tous les âges. Nous sommes à l'heure de la consommation du monde politique. Nous sommes à l'heure de la consommation de toutes choses. Nous sommes à la fin de toutes les choses naturelles, prêts à entrer. L'autre jour, alors que j'étais à Shreveport ou ailleurs, je regardais, je me disais, les arbres meurent, l'herbe meurt, les fleurs meurent, je suis en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Tout est en train de mourir. Tout dans ce monde est en train de mourir. Nous, qui nous tenons ici ce matin, nous sommes aussi en train de mourir. Certainement qu'il y a un monde quelque part où rien ne meurt. S'il y en a un où tout meurt, il doit y en avoir un où tout vit. C'est ce à quoi nous aspirons. Arriver à ce lieu où les arbres sont immortels. Aller là où tout est immortel et se tient dans la gloire de Dieu. Ayant vu les trois premiers versets, nous pouvons dresser le décor. Le premier, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le deuxième nous montre qu'elle fut donnée à Jean par un ange. Et le troisième, c'est « Bienheureux », la bénédiction pour ceux qui lisent. Et si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez entendre. C'est quelque chose que cela. « Bienheureux celui qui lit », et si vous ne pouvez pas lire, « Bienheureux celui qui entend, car le temps est proche ». Maintenant, imaginons quelles règles nous devons suivre pour comprendre la signification de ce que Jean, lui qui a écrit ceci, a voulu dire en parlant des bénédictions, etc. Je crois que dans l'Ancien Testament, le prêtre se tenait debout chaque matin et lisait les Écritures. L'assemblée écoutait. Beaucoup ne savaient pas lire. C'est pourquoi il est dit « Béni soit celui qui lit et ceux qui entendent ». Vous voyez, il y avait le lecteur et les auditeurs. Celui qui lit et ceux qui entendent sont bénis. Donc, si vous écoutez simplement, vous êtes bénis. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent, car le temps est proche. Maintenant, les versets 4 à 6 expriment la salutation à l'Église, et nous allons étudier ces versets 4 à 6. Avant d'y toucher, je désire que chacun s'efforce de réfléchir. De quoi s'agit-il? De la révélation de Jésus-Christ où Dieu soulève le voile du temps. Ce sont des temps, les âges de l'Église, ce qui se passerait, que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur cette terre. Ainsi donc, Dieu prit le voile, le retira et laissa Jean regarder et voir ce que chaque âge ferait afin de l'écrire dans un livre pour l'envoyer aux sept églises. Qu'est-ce que c'est? C'est Christ révélé dans les jours de son action. C'est un livre plein d'action, et c'est un livre prophétique que Dieu nous a donné par son ange. Il a été écrit par Jean, et il est en bénédiction pour quiconque le lit ou l'entend lire, car le temps est proche où tout cela doit être accompli. Nous avons établi une base solide maintenant. Et souvenez-vous que nous gardons l'Église présente à l'esprit. D'une part, l'Église commence, de l'autre, elle se termine. Nous en dirons plus lundi soir quand nous aborderons les âges de l'Église. Jean, aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Maintenant, nous allons pénétrer dans les parties mystérieuses et profondes des symboles. Ceci est adressé aux sept églises qui sont en Asie mineure. Ces églises représentaient les âges à venir. Il les exalte et les loue pour leurs œuvres et pour ce qu'elles ont fait. Mais cela est adressé à ces églises, les sept églises qui sont en Asie mineure. Or, l'Asie mineure n'était pas toute l'Asie, le continent asiatique. Ce n'en était qu'une petite partie. C'est une région à peu près grande comme la Pennsylvanie ou l'Indiana, seulement une petite région où se trouvaient ces sept églises. Il y avait en ce temps-là d'autres églises que celles-là, mais la prophétie révéla leur caractère particulier. Et je vais vous lire maintenant ce que j'ai tiré de mes lectures concernant leur histoire. Maudit est celui qui entend et qui n'écoute pas. Et maintenant nous arrivons à l'époque de ce quatrième verset dont nous voulons dire quelque chose ici. De la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Nous parlerons un peu plus tard de ces esprits. Observez au verset 8 comment il s'adresse aux sept églises. Il dit « Celui qui est et qui était et qui vient. Celui qui était autrefois, qui est maintenant et qui vient. » Ici, il exprime la triple manifestation de son œuvre. Nous reviendrons à cela dans une minute. Mais le verset 8 maintenant, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ne perdons pas de vue les quatrième et sixième versets. Ils sont identiques. Tout d'abord, il dit « Celui qui est et qui était et qui vient. » Qu'essaye-t-il de placer devant l'Église? Sa divinité. Aujourd'hui, on essaye de faire de lui un prophète. Il est plus qu'un prophète. Et certains essayent de faire de lui trois dieux. Il n'est pas trois dieux. Il est un seul Dieu qui s'est exprimé dans trois fonctions, trois manifestations du même Dieu. Et souvenez-vous bien que ceci se trouve dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la Révélation. Et quiconque l'entend et ne garde pas les paroles de ce livre, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Jésus ne se révèle pas comme trois dieux, mais comme un Dieu unique en trois fonctions. Oh, nous allons trouver une riche nourriture lorsque nous pénétrons dans ces âges de l'Église et que nous verrons comment ils ont perdu cela. Cela a provoqué une grande séparation au Concile de Nicée. Les deux parties se sont séparées dans la colère. Et ils ont fait la même chose de nos jours, comme à un nouveau Concile de Nicée, parce qu'il va y en avoir un autre. Aussi sûr que je me tiens ici, les églises catholiques et protestantes vont mettre quelque chose en commun ou s'accorderont l'une avec l'autre. Voyez ce qui se passe avec l'archevêque de Canterbury. Ils sont tous en train de se réunir en une seule masse. Pourtant, il n'y a dans la Bible aucun enseignement sur un Dieu triple. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le canon tout entier des Écritures trouve sa confirmation dans les révélations du livre de l'Apocalypse, et Christ y a mis son sceau, c'est cela. Si quelqu'un retranche ou ajoute, sa part lui sera pareillement ôtée du livre de vie. Aussi approchons-nous de ceci sans égoïsme, mais avec un cœur et un esprit ouverts. Au Concile de Nicée, ils ont abouti à deux décisions importantes. Oh, beaucoup de pères de la première Église avaient des conceptions opposées. L'une d'elles était un Dieu triple, trinitaire, et l'autre était qu'il y avait un Dieu unique. Et toutes deux ont pris vie, et sont devenues deux branches s'écartant comme ceci. La Trinité est devenue un Dieu en trois personnes, et les oneness sont devenues unitaires. Les deux conceptions sont aussi fausses l'une que l'autre. Ainsi, ces deux branches ont suivi chacune sa direction. Mais ici, là-dedans, c'est là que la vérité est révélée. Jésus ne pouvait être son propre Père. S'il avait eu un Père en dehors du Saint-Esprit, il serait un enfant illégitime et non pas... Le Saint-Esprit l'a conçu. Il a dit que Dieu était son Père. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Cela se trouve dans Matthieu 1, 18. Le Saint-Esprit et Dieu doivent être une seule et même personne, sinon Jésus aurait deux pères. Et il fut appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a déclaré, alors qu'il était ici sur la terre, que lui et le Père étaient un. J'ai noté ici tous les passages des Écritures correspondants pour que vous puissiez les noter si nous abordons cette question. Ici, nous le voyons manifesté dans une triple fonction de son être. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a pas là trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Lors du Concile de Nicée, ils durent fabriquer une trinité parce que dans le monde romain, il y avait beaucoup de dieux. Ils priaient leurs ancêtres. J'ai leur histoire sous les yeux et je pourrais vous en citer de nombreux passages. Ils priaient leurs ancêtres. C'est pourquoi ils ont Sainte-Cécile, Saint-Marc, Saint. L'apôtre Paul a bien dit, « Car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. » Mais il leur fallait un Dieu trinitaire. Ils avaient Jupiter, Mars, Vénus. Et ce n'aurait pas été juste d'en faire qu'un seul Dieu. Aussi l'ont-ils divisé et ont transformé la triple fonction de Dieu en trois dieux différents. Mais il dit clairement ici dans l'Apocalypse qui il est. Je suis celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le A à Z de l'alphabet grec tout entier, le lys de la vallée, la rose de Saron, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est, qui vient, la racine et le rejeton de David. Il est Dieu. Dieu avec 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru au monde, élevé dans la gloire. Dieu, non pas une troisième personne ou un prophète, mais Dieu lui-même manifesté dans une forme humaine. Or, ceci est une révélation. Souvenez-vous-en. Dieu au commencement était le grand Jéhovah qui se tenait dans une colonne de feu au-dessus d'Israël et qui les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'Alliance. Il descendit sur la montagne et toute la montagne s'embrasa. Le feu se répandit sur la montagne et les 10 commandements furent écrits. Il était appelé Père éternel par ses enfants. Sa race choisie, les Juifs. Puis ce même Dieu fut manifesté dans un corps né d'une vierge, corps qu'il créa dans le sein de Marie. Il déploya sa tente, en quelque sorte, et vint vivre parmi les hommes. Et ce même Dieu fut fait chair et demeura parmi nous. C'est la Bible qui le dit. Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire de lui trois personnes. Ne baptisez pas au nom de trois dieux, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, un seul Dieu. Ainsi, ce même Dieu fut fait chair. Il dit, « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. » Après qu'il ait disparu de la terre, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul le rencontra sur la route de Damas, alors qu'il était encore appelé Saul. Et une voix se fit entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis Jésus. » Il était une colonne de feu, une lumière qui aveugla les yeux de l'apôtre. Il était revenu à ce qu'il était. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. C'est pourquoi il dit ici, « Je suis le Tout-Puissant. » La même forme qu'il avait avant d'avoir été fait chair, et le corps dans lequel il a vécu fut appelé Jésus, l'homme que nous connaissons, Jésus. C'est en cela que beaucoup d'entre vous, chers unitaires, lorsque vous baptisez dans le nom de Jésus, vous êtes dans l'erreur. Il y a des centaines de Jésus dans le monde aujourd'hui, mais il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il est né, le Christ. J'ai rencontré des quantités de Jésus, mais il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il est Dieu. Et Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres qui appartiennent à un seul nom. Vous dites, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres, comme humain, qui signifie ce que nous sommes. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, l'Esprit Saint. Ils disent au nom du Père, « Regardez les pères et les fils de vos fils. Regardez tous ces gens d'ici, vous comprenez ?» Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce sont des titres qui accompagnent le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette façon que l'Église apostolique baptisait au commencement. Et je demande qu'on produise un texte de l'Écriture ou un exemple dans l'histoire de quelqu'un ayant été baptisé dans l'Église chrétienne autrement qu'au nom de Jésus-Christ, avant que l'Église catholique ne fût formée et qu'elle eût adopté pour credo Père, Fils et Saint-Esprit. Ressortez vos livres d'histoire. Vous n'y trouverez rien de semblable. En 304 après Jésus-Christ est venu le baptême trinitaire pour un Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et c'est du paganisme. Avant la fin de cette semaine, je vous aurai lu les passages tirés de ces livres et je vous aurai montré ces choses par la Bible. Ce matin, nous parlerons de l'Apocalypse et nous démontrerons où cela a commencé et comment cela a commencé d'exister. Revenons à la vérité, frères, car nous sommes au dernier jour. Attendez que nous arrivions à cette église d'Éphèse et que nous la comparions avec celle de Laodicée en considérant ce qui s'est passé dans l'intervalle. Vous verrez comment cette chose s'est infiltrée. Nous arriverons à l'âge de Luther dont il est dit « Tu passes pour être vivant et tu es mort ». Le mot même de Sartre signifie « mort ». Au cours des 1500 environ, des âges et ténèbres, ils ont perdu la vie. Chacune de ces églises a gardé cela jusqu'à la fin. Au concile de Nicée, ils abolirent le nom et en firent trois dieux. Il dit ici « Je suis celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant ». Certes, il avait une nature triple sur la terre. Quand il était sur terre, il était un être triple. Sur terre, il était prophète. Dans le ciel, il est aussi sacrificateur. Et quand il reviendra sur la terre, il sera roi. Prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était et qui est et qui vient. Celui qui était, c'était Jésus comme prophète. Celui qui est, c'est le sacrificateur présentant des sacrifices spirituels. Un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités et qui se découvre et manifeste qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi, mais un seul Dieu. Quand il était sur cette terre, il était un prophète. Il était la parole, le témoin fidèle, comme l'appellera la Bible un peu plus loin. Le prophète est un témoin fidèle. Maintenant, il est sacrificateur. Et quand il viendra, il sera roi. Si vous allez plus loin, vous pourrez voir cela dans Apocalypse 15:3. Lisons et voyons qu'il sera roi lorsqu'il reviendra. Et il chante le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations ». Qu'était-il sur terre? Un prophète. Comment les gens surent-ils qu'il était prophète? Parce qu'il accomplit le signe du Messie qui devait être un prophète. Oh, béni soit le nom du Seigneur! Comment l'ont-ils manqué? Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose d'autre. Et il produisit le signe du Messie, et eux refusèrent de l'entendre. Il était prophète. Moïse avait dit, « Le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il était prophète sur cette terre, parce que, qu'était-il? Le témoin fidèle de la parole de Dieu. Amen. Il était la parole de Dieu manifestée. Jean, premier chapitre. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Il était le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle de Dieu. Il était la parole de Dieu. Et étant la parole, il était prophète, car la parole de Dieu lui parlait. Il ne devait dire que « Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui habite en moi accomplit ses œuvres. » Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, a dit Jésus. Moi, l'homme, le tabernacle. Dieu a de nombreux titres. Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Oh, ils sont nombreux. Il a sept noms rédempteurs composés. Il a de nombreux titres. Rose de Saron, Lys de la vallée, Étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit. Tout cela mais il n'a qu'un seul nom humain. Dieu n'a qu'un seul nom, et c'est celui de Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ, le Seigneur, est né, 8 jours plus tard, le Saint-Esprit lui donna son nom, Jésus. Sa mère le fit circoncire, et il l'appela Jésus. Il est né Christ, comme je suis né Branham. J'étais un Branham quand je suis né, et j'ai reçu le nom de William. Amen. Et il est né Christ, le Sauveur, et à l'âge de 8 jours, on lui donna le nom de Jésus. Il était le Seigneur de gloire manifesté. C'est pourquoi il est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire manifesté parmi nous. Oh, c'est ce qu'il est. Sur cette terre, il était prophète. Dans la gloire, il est sacrificateur. À son retour, il est roi. Oh, j'aime cela. Prophète, fidèle témoin de la parole, sacrificateur, présentant son propre sang devant Dieu, roi, roi des saints, non pas roi du monde, il est roi des saints. Il y a des rois terrestres sur les peuples, mais nous aussi nous avons un roi et un royaume. C'est pourquoi nous agissons différemment. Comme je disais il n'y a pas longtemps, nous étions allés au magasin avec ma femme et nous avons vu quelque chose qui était presque un miracle. C'était l'été et nous vîmes une femme vêtue d'une robe. Je dis, c'est étonnant. Si j'avais mon appareil, je ferais une photo de cette dame. Vous comprenez? C'était la première femme que nous voyions en jupe. Vous savez, habillée comme une dame devrait l'être. Toutes les femmes. Ma femme me dit, dis-moi Bill, pourquoi les nôtres s'habillent-ils convenablement? Est-ce parce que nous en avons reçu l'ordre? Je répondis, ce ne sont pas les nôtres, c'est le peuple de Dieu. Être le peuple de Dieu réclame la sainteté. Eh bien, les autres ne vont-ils pas aussi à l'église? Voici, répondit justement une dame qui chante dans le chœur d'une certaine église d'ici. Alors, pourquoi fait-elle comme cela? Je lui dis, parce qu'on ne lui a pas enseigné à faire autrement. C'est parfaitement exact. Il y a cette église charnelle que nous allons examiner cette semaine. Il y a l'église spirituelle et l'église charnelle. Elles dérivent toutes et retournent aux églises faites par les hommes. La Bible dit, dans Apocalypse 17, qu'elle le ferait. Elles y retournent maintenant même. Toutes agissent ainsi, s'organisent et disent, nous sommes ceci et cela, nous sommes organisés, nous sommes ceci et nous sommes cela. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais ils ont enlevé toute l'autorité de l'Église. Ils l'ont placée sur un évêque ou sur un pape. Dieu est dans son Église, parmi son peuple, se manifestant lui-même au travers des laïcs et partout. Mais aujourd'hui, ma femme me demanda, « Mais ne sommes-nous pas américains ?» Je répondis, « Non, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas américains, nous sommes chrétiens, notre royaume est d'en haut. Et si notre vie vient de là-haut, alors nous agissons en conséquence. Notre vie vient d'un lieu saint, notre apparence est différente, notre façon de se vêtir est différente. La femme de là-haut a les cheveux longs, elle n'a pas de maquillage sur le visage, et elle ne porte pas de shorts, elle porte des jupes et de longues robes, et elle a de longs cheveux et tout cela. C'est ainsi que la nature qui vient d'en haut se réfléchit sur nous. Les hommes ne fument pas, ni ne chiquent, ni ne mentent, ni ne volent. Leur esprit vient d'un lieu saint qui les fait agir saintement et se reconnaître les uns les autres comme frères. Vous voyez? C'est cela. Nous appartenons à un royaume, et nous avons un roi, et il est le roi des saints. Le mot saint vient du mot sanctifié. Quand une personne est sanctifiée, Christ, le Saint-Esprit, vient habiter son cœur et en devient le roi. Oh, il faudrait que cela pénètre en vous. Oh, quand le vase sanctifié de Dieu, lorsque Christ, le roi, le Saint-Esprit, vient habiter, un roi possède sa propriété. Amen. Et tout votre être est gouverné par le roi des saints, un royaume. Chaque royaume de cette terre sera ébranlé, déchiqueté par la puissance atomique. Mais la Bible dit, nous recevons un royaume inébranlable, le roi des saints. Je voudrais vous faire remarquer également les symboles de Christ dans la Bible et sur cette terre. Sur cette terre, il était prophète. Le croyez-vous? Un prophète est la parole, nous le savons. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a l'Esprit de Dieu en lui. Et vous le savez, le prophète de l'Ancien Testament était appelé Dieu. Combien savent cela? Jésus a dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, s'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Jean 10, 34 à 36. Il était appelé Dieu, car il portait en lui la parole de Dieu, le « ainsi dit le Seigneur ». C'est pourquoi le mot « prophète » signifie, il ne faut pas mélanger son interprétation, vous comprenez. Il dit, s'il y en a parmi vous qui est spirituel, prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas, je ne l'ai pas envoyé, c'est ainsi que vous saurez. Vous voyez, l'interprétation divine de la parole doit coïncider avec cette dernière révélation faite à l'Église. Il est Dieu, le Tout-Puissant. Sur cette terre, il était un prophète, un aigle. Combien savent qu'un prophète est considéré comme un aigle? L'aigle est l'oiseau le plus fort que nous ayons, le plus puissant. Ses ailes peuvent atteindre 14 pieds d'envergure. Il peut prendre son vol si haut que si un autre oiseau essayait de le suivre, il se désintégrerait, ses plumes lui seraient arrachées et il se disloquerait. Mais l'aigle, lui, est construit spécialement. Et à quoi servirait-il à cet autre oiseau de monter si sa vue n'est pas suffisante? Vous parlez d'un œil de faucon, parlez plutôt d'un œil d'aigle. Un faucon est capable de voir un poulet, c'est vrai. C'est là le problème chez quelques-uns de nos faucons d'aujourd'hui. Mais je vous dis que si un faucon essayait de suivre un aigle, il mourrait suffoqué. Il ne peut pénétrer dans les sphères où s'élève l'aigle. Mais l'œil de l'aigle est capable de voir à de telles distances quand il est là-haut. C'est pourquoi Dieu appelle ses prophètes des aigles. Il monte là-haut, et parce qu'il est un aigle, il peut voir au loin. Christ sur cette terre était un aigle. Quand il mourut, il était sacrificateur. C'est cela qui a fait de lui un agneau, n'est-ce pas vrai? Et lorsqu'il reviendra, il sera un roi. C'est pourquoi il sera un lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est un aigle, un agneau et un lion. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit, prophète, sacrificateur et roi, celui qui était et qui vient le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga du commencement à la fin, le Dieu éternel. Je voudrais vous demander à vous, chers catholiques, qui dites le Fils éternel de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, le Fils éternel avec Dieu. Comment pouvez-vous dire une telle parole? Je suis quelqu'un d'insignifiant, ayant une simple instruction primaire, mais j'en sais plus que cela. Le mot « fils » exprime la pensée qu'il a eu un commencement. Alors comment peut-il être éternel et être fils? L'éternité n'a ni commencement ni fin. Par conséquent, il ne peut être un fils éternel et avoir un commencement, parce qu'une telle chose, un fils éternel, n'existe pas. Un fils a un commencement, il ne peut donc être éternel. Il est le Dieu éternel, et non pas le Fils éternel. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, manifesté dans la chair. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Le jour de la Pentecôte, lorsque la colonne de feu est descendue sur eux, avez-vous remarqué qu'elle s'est partagée? Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Du feu comme des langues, se posant sur chacun d'eux. Que faisait Dieu? Se partageant lui-même dans l'Église, venant en chacun de nous, donnant aux femmes, aux hommes, à tous, une portion de son esprit, se divisant lui-même au sein de son Église. Comment un homme peut-il venir dire « L'homme saint, c'est le pape, l'homme saint, c'est l'évêque ». L'homme saint, c'est le Christ, l'Esprit saint en nous. Comment pouvez-vous dire que les laïcs n'ont rien à dire? Chacun de vous a quelque chose à dire. Chacun de vous a une œuvre à faire. Chacun de vous doit porter un message. Gloire à Dieu! Le Saint-Esprit s'est divisé le jour de la Pentecôte, Dieu se partageant lui-même. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Ce jour-là, le Saint-Esprit était au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. C'est cela. Le Saint-Esprit a le droit de se mouvoir où il veut, de descendre sur qui il veut. Vous n'avez pas accepté ce que dit tel évêque ou tel prêtre. Il est notre unique prêtre. Oui, il est le souverain sacrificateur, prophète, sacrificateur et roi. Maintenant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, nous aborderons cela, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Le mot « laver » employé ici signifie réellement en grec « délier ». Nous étions liés à la terre par notre péché. Nous ne pouvions ni voir, ni entendre, ni rien concevoir du ciel ou quoi que ce soit. Mais quand le sang est descendu, il a coupé les liens et nous avons été déliés. Une fois, j'ai lu une histoire qui aurait bien sa place ici. Un paysan avait attrapé un corbeau et l'avait attaché. Il se disait « Je vais donner une leçon aux autres corbeaux ». Il attacha donc le vieux corbeau par une patte avec une ficelle, et la pauvre bête mourait de faim. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine se traîner. C'est ce qu'ont fait certaines de ces organisations et églises qui ont mis les gens dans les liens. Voici jusqu'où vous pouvez aller. Le temps des miracles est passé. Eh oui, vous êtes tout à fait liés, c'est tout. Le Saint-Esprit, ça n'existe plus. Il ne parle plus en langue comme il le faisait autrefois. Il est Dieu, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13:8, vivant dans tous les âges de l'Église. Nous verrons cela après que nous aurons établi les bases ce matin. Vous voyez, il est le Dieu qui vit dans chaque âge de l'Église, il vivra dans chaque âge de l'Église, et il vivra dans son peuple pour l'éternité, car nous avons maintenant en nous la vie éternelle. Cette dénomination avait donc noué ses liens. Le temps des miracles est passé, la guérison divine, cela n'existe pas. Le pauvre bonhomme clopinait et il était si mal en point qu'il pouvait à peine marcher. Un jour, un brave homme vint à passer et dit « Ce pauvre vieux corbeau, j'ai tellement pitié de lui. Après tout, on pourrait bien lui donner un peu de maïs. C'est sa seule subsistance. Il faut bien qu'il mange. Il ne savait rien d'autre, il ne venait que pour avoir du maïs. » Alors il prit son couteau et coupa les liens du vieux corbeau. Et voilà les autres corbeaux qui arrivent et disent « Viens donc, Johnny le corbeau, partons pour le sud parce que le froid arrive. » Vous savez ce qui arriva? Ce corbeau alla aussi loin qu'il put et il dit « Je n'y arrive pas, ce n'est vraiment pas pour notre temps, nous ne pouvons pas le faire. » Vous voyez, il avait été lié si longtemps qu'il pensait être encore lié, vous comprenez? Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Vous êtes liés par des credos et des dénominations, issus de cette mère prostituée du début qui vous disait que Jésus-Christ n'est pas toujours le même, et que la guérison divine n'existe pas, qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, qu'il n'y a rien de toutes ces bêtises-là, essayant de vous dire que vous avez été liés si longtemps que vous croyez l'être encore maintenant. L'homme bon, le Christ a donné son sang pour qu'il puisse nous laver et nous délier de notre péché. Qu'est-ce que le péché? Je demande à tous de me le dire. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. C'est vrai, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et votre péché est la seule chose qui vous empêche d'être libre, car Dieu a coupé les liens de votre incrédulité, mais vous êtes tellement liés par les credos que vous croyez être encore liés. Mourant de faim, clopinant de ci, de là et disant « Je suis presbytérien, méthodiste, baptiste, on m'a dit que j'appartenais à l'Église de Christ, le temps des miracles est passé, rien de cela n'existe. » Ô pauvre corbeau affamé, pourquoi ne viens-tu pas ce matin? Pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Alléluia! Écoute tous les avertissements et fuis vers le soleil de la justice qu'est la guérison sous ses ailes. Amen. C'est cela, frère, c'est cela, sœur. Oh, celui que le Fils a délié est vraiment libre. Oui, certainement. Eh bien, mon pasteur, rien de tout cela, la Bible dit que vous êtes libre. Eh bien, mon Église, eh bien, soyez déliés. Il nous a lavés et délivrés de nos dénominations par son propre sang. Il nous a libérés afin que nous puissions penser par nous-mêmes, parler par nous-mêmes et agir par nous-mêmes. Eh bien, si je retourne en disant à mon pasteur que je dois être rebaptisé, il va... Que faites-vous du « vous êtes libre » Ceci est une révélation, vous savez. Vous êtes libre. Si vous avez été aspergé de quelques gouttes d'eau comme ceci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un bassin tout près, ici, ce matin, avec de l'eau dedans, vous voyez ? Certainement, ce n'était pas juste. Vous n'êtes donc plus lié, vous êtes libre, mais peut-être que vous ne le savez pas. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce matin. La Bible dit, il nous a délivrés de nos péchés, de notre incrédulité, afin que nous puissions recevoir la révélation de Jésus-Christ. Allez-vous-en libre. Vous n'avez pas à prendre ce que disent les églises. Prenez ce que Dieu dit à ce sujet. Voilà sa révélation, révélant qui il est. J'ai toujours cru que Dieu le Père avait une longue barbe blanche et des cheveux blancs, et que le Fils était d'âge moyen, et que le Saint-Esprit était un garçon porte-bonheur. Oh frère, c'est du paganisme. Vous êtes païens si vous croyez en trois dieux. Le tout premier commandement, quel est le premier commandement ? Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Marc 12, 29. C'est cela, il est un seul Dieu, et non pas trois dieux. Il a vécu dans trois fonctions, servi en trois lieux. Il est prophète, sacrificateur et roi. Il est aigle, agneau et lion. Il est le lys de la vallée, la rose de Saron. Le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est la racine et le rejeton de David. Il est le A à Z. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est tout cela, mais il est un. Il est un seul Dieu. Les titres appartiennent à Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Jamais personne, dans aucune page de la Bible, ou dans toute l'histoire jusqu'à l'existence de l'Église catholique, n'a jamais été baptisé par immersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Si vous trouvez un texte quelconque ou quoi que ce soit qui prouve le contraire, vous le notez et le déposez pour moi ici ce soir, et je sortirai de l'Église en disant « Je suis un hypocrite, j'ai mal enseigné les gens ». Si vous pouvez me montrer un passage de l'Écriture, ou m'apporter un récit authentique, qui me montrerait que des gens auraient été baptisés dans la Bible au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Ou si vous m'apportez un livre d'histoire, une page, une citation d'histoire, où quelqu'un ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, avant le concile de Nicée de l'Église catholique, venez me l'apporter, et j'épinglerai une pancarte sur mon dos, et traverserai Jeffersonville avec vous derrière, soufflant dans une trompette, et j'écrirai dessus, « Voici un faux prophète qui égare les gens. » Et vous, pasteur, si vous êtes ici ce matin, et que vous êtes d'accord de me faire cela, alors vous devez aussi être d'accord que moi je vous le fasse, et vous aussi qui allez recevoir cette bande. Qu'est-ce que cela ? C'est l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est le Saint-Esprit, le Christ envoyant son message aux églises. Écoutez-le, écoutez-le, c'est ce que la Bible enseigne. Où cela nous mène-t-il? Si vous voulez bien ne pas vous fâcher et aller pendant cette semaine, procurez-vous le Concile de Nicée, les deux Babylones de Hyslop, etc. L'histoire écrite par Joseph est très bien, mais il n'a écrit qu'un paragraphe sur le Christ disant « Il y avait un homme du nom de Jésus qui parcourait le pays guérissant les malades. Il mourut sous Pilate et Hérode qui le mirent à mort. Et alors ses disciples vinrent dérober son corps et le cachèrent. Et chaque nuit, ils venaient prendre un morceau et le manger. C'était donc des cannibales. C'est ainsi qu'ils prenaient la communion. » C'est la pensée de la chair. Joseph n'est vraiment pas quelqu'un écouté. Mais prenez le livre des martyrs de Fox. C'est vraiment quelque chose d'authentique. Le livre des martyrs de Fox, combien l'ont-ils lu? Les âges primitifs de Pember, ou les deux Babylones de Hyslop, ou quelques bonnes sources sûres. Le meilleur que nous ayons, c'est le concile prénicéen et le concile de Nicée. Et vous y trouverez qu'il n'y a aucune mention, que personne... Prenez les Saintes Écritures, et voyez s'il n'y a jamais eu quelqu'un dans la Bible qui ait été baptisé en utilisant ces titres appelés Père, Fils et Saint-Esprit. Cela dénote trois dieux. C'est bon pour une cérémonie païenne, et le catholicisme n'est rien d'autre dans le monde qu'une forme païenne du christianisme. Et c'est de l'Église catholique que sont sortis Martin Luther, John Wesley, les baptistes, les presbytériens et les autres. Mais dans les derniers jours, une porte a de nouveau été ouverte à la vérité, nous montrant que c'est la Bible qui le dit, Et il y a un grand prophète qui doit venir sur cette terre dans les derniers jours. Nous croyons à sa venue. Veillez, et il aura une église. Oui, nous verrons cela. Souvenez-vous que ceci est la révélation. Vous ne pouvez rien en retrancher. Quel défi! Trouvez une personne dans la Bible ou un endroit quelconque où ils aient jamais baptisé quelqu'un au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ou aspergé quelqu'un de quelques gouttes d'eau pour la rémission de ses péchés. Trouvez-moi cela dans la Bible. Ils ne l'ont jamais fait. Et chaque personne, quelle que soit la manière dont elle avait été baptisée, devait être rebaptisée au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 19. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il dit « disciples », ils tinrent une grande réunion. Ils suivaient un homme du nom d'Apollos, qui était un homme de loi converti, un baptiste qui croyait en Jean-Baptiste, et qui prouvait par les Écritures que Jésus était le Christ. Paul traversa la ville pour voir Aquilas et Priscille, acte 18. Il était allé chez eux pour dîner ou quelque chose comme cela. Ils lui parlèrent de ce grand homme. Ils allèrent l'entendre. Et Paul l'écouta ce soir-là. « Il est très bien, dit-il. C'est parfait. C'est très bien. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Qu'en est-il de vous, pauvres baptistes, qui croyez recevoir le Saint-Esprit au moment où vous croyez? » Il demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Certains disent, « Ce n'est pas ce qui est écrit. Je vous jette un défi. J'ai le texte grec authentique sous les yeux, l'hébreu aussi. La Bible parle en grec et en hébreu, et aussi en araméen. Et je les ai tous les trois sous les yeux. Ils disent, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» C'est vrai. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Alors ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il demanda alors, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Nous avons déjà été baptisés par l'homme qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été baptisés du baptême de Jean, dans le même trou d'eau peut-être, par ce même homme. » Paul dit, « Cela ne va pas. Il n'a baptisé que pour la repentance et non pas pour la rémission des péchés. » Et pour certains de vous, unitaires, votre baptême est aussi faux que le leur. Vous baptisez pour le salut. L'eau ne sauve pas un homme. C'est le sang, la repentance. Ce n'est pas le baptême de régénération, non. La régénération vient par l'Esprit. Le baptême est une expression extérieure de l'œuvre intérieure de régénération qui a été accomplie. Vous comprenez? Très bien, remarquez bien ceci. Paul a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?»« Du baptême de Jean, répondirent-ils. » Paul dit, « Jean a vraiment baptisé pour la repentance, disant que vous deviez croire en lui, l'agneau, le sacrifice qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ. » Ayant entendu cela, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Puis Paul leur imposa les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit, parlèrent en langue et prophétisèrent. Et venez me dire que ce n'est pas l'Écriture, ou montrez-moi n'importe où quelqu'un qui ait jamais été baptisé d'une autre manière dans le Nouveau Testament qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Montrez-le-moi. Agabus et beaucoup d'autres encore qui furent baptisés jusqu'à l'époque du Concile de Nicée le furent tous au nom de Jésus-Christ. Les missionnaires labouraient dans le champ missionnaire avec le nom de Jésus-Christ. Mais quand vint le Concile de Nicée, il leur fallut trois dieux. Ils ont renversé Jupiter et élevé Pierre. Ils ont renversé Vénus et élevé Marie. Ils avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de saints et tout le reste. Ils firent un baptême trinitaire et le donnèrent en nourriture aux protestants. Et aujourd'hui encore, ils avalent cela. Mais maintenant, la lumière du soir est venue. Le prophète a dit, « Mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, vous le trouverez. C'est par l'eau qu'aujourd'hui passe le chemin de la lumière. Enseveli dans le précieux nom de Jésus, jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés, et le Saint-Esprit entrera en vous. La lumière du soir est venue. C'est un fait. Dieu et Christ sont un. Le croyez-vous? Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, que toute la maison d'Israël, donc, sache certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2,36. Oui, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce même Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Il n'y a pas bien longtemps, je parlais avec un juif ici à la maison de David. Il me disait, « Vous les gentils, vous ne pourrez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. Nous en savons plus que cela. » Je lui dis, « C'est vrai, monsieur le rabbin, nous ne coupons pas Dieu en trois morceaux. » Je lui demandais, « Croyez-vous les prophètes ?»« Certainement, me dit-il. » « Croyez-vous Ésaïe 9,5 ?»« Oui, me dit-il. » Je lui demandais, « De qui parlait le prophète ?»« Du Messie. » ?»« Quelle relation y aura-t-il entre le Messie et Dieu ?» demandai-je. « Il sera Dieu. » Je lui répondis, « C'est exact. Amen. » Voilà, vous ne pouvez pas le couper en trois morceaux. Parmi les missionnaires qui sont ici, il y en a un qui va partir vers les Juifs. Je crois que cet homme est assis là. N'essayez jamais de faire de Dieu. Les Juifs ne connaissent pas de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils vous répondront aussitôt qu'ils savent d'où cela vient, du Concile de Nicée. Ils n'écouteront pas cela. Mais faites-leur voir où ce Dieu fut fait chair, et qu'il est le seul Dieu qui existe. Dieu fait chair dans une forme humaine et vivant au milieu de nous pour nous sanctifier. Il a été enlevé afin de pouvoir venir lui-même sous la forme du Saint-Esprit. Dieu le Père, le Saint-Esprit, c'est la même personne. La Bible dit dans les généalogies de Jésus-Christ, au premier chapitre de Matthieu, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. Et plus loin il est dit, laissez-moi vous le lire et vous verrez de quoi je parle. Commençons au verset 18. Or la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. Est-ce écrit ainsi? Se trouva enceinte de qui? Partie non enregistrée, note de l'éditeur. Je croyais que Dieu le Père était son Père. Alors Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est le même Esprit, sinon Jésus aurait deux Pères. Mais Joseph, son mari, étant juste, et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui était conçu en elle est de... » Dieu le Père? « De l'Esprit Saint. » Alors qui était le Père de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est en vous? Eh bien, c'est aussi Dieu le Père, n'est-ce pas? C'est sûr, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Nous avons ici Dieu le Père, nous avons ici Dieu le Saint-Esprit, et nous avons ici Dieu le Fils, voyez? Cela fait trois dieux, mais la Bible ne dit rien de tel. Ces deux doivent être le même, sinon il aurait deux pères, voyez? Il ne peut avoir de père, vous le savez bien. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva, afin que fût accompli ce que le Seigneur dit par le prophète, disant, « Voici la Vierge sera enceinte, et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. » Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23. Cela se trouve dans le premier chapitre de Matthieu. Dans Matthieu 28, 19, Jésus dit, « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ, bien sûr. Vous lisez une histoire d'amour qui dit, « Jean et Marie vécurent longtemps heureux. » Qui sont Jean et Marie? Il faut revenir au début de l'histoire pour le trouver. S'il n'y a rien de tel, aucun nom de Père, Fils ou Saint-Esprit. Alors, de qui est-ce le nom? Revenez au début de l'histoire pour voir de qui il parlait. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. Acte 2,38. Il avait la révélation. Jean avait la révélation. Jésus était la révélation. Il s'est présenté lui-même ici dans l'Écriture. « Je suis celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Bien, maintenant, voyons rapidement le verset 6, afin que nous puissions sortir aussitôt que possible. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Verset 8. « Et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Verset 6. Voyez-vous là cette révélation? Comment cela est-il révélé? Les hommes se grattent la tête et s'arrachent les cheveux, essayant de trouver ce que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, faisant trois en un. Ne vous arrachez pas les cheveux et ne vous grattez pas la tête. Levez simplement les yeux. La révélation vient d'en haut. C'est exact. Il révélera. Ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'agit là de trois manifestations dans lesquelles un seul Dieu vit. Avant de s'abaisser vers l'homme, il était seul dans l'office d'esprit. Puis il se fit un corps et vécut en lui pour y produire son propre sang. Cela ne s'est pas fait au travers du sexe, comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden, mais Dieu a produit un corps par création. Et au travers de ce corps né d'une vierge, il a donné son sang qui nous a sanctifiés et nous a délivrés de notre incrédulité pour croire en lui. Ainsi donc, lorsque nous faisons cela, nous le recevons dans notre cœur, et c'est Dieu en nous. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de même qu'il est aussi prophète, sacrificateur et roi, c'est la même chose. Bien, maintenant, le septième verset, c'est l'annonce. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oh, combien de temps nous reste-t-il? Comme ceci est beau. Pouvez-vous m'accorder encore 30-20 minutes? Le pouvez-vous? Très bien. Ce soir, nous essayerons de saisir le reste de la vision de Patmos. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à la fin de l'annonce. Oh, vous sentez-vous bien? Aimez-vous cette vieille Bible? Est-ce que cela ne vaut pas la peine? De quoi est-ce la révélation? Qu'est-ce que c'est? Dieu plonge la main dans ce livre et ôte le voile en disant « C'est lui, prophète, sacrificateur, roi, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Tout cela, c'est Dieu. » Ôtons encore le voile pendant quelques minutes avec l'aide du Seigneur. Ôtons le voile de nos yeux et « Voici, il vient avec les nuées. » Alors, comment vient-il? Avec les nuées. Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuées il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la Transfiguration. Une nuée le recouvrait. Ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée qui était la puissance de Dieu. Oh, nous allons y arriver tout de suite dans ces âges de l'Église. Je vous le dis, rien que d'y penser me fait frissonner jusqu'au plus profond de moi-même. Je vois ces temps dans lesquels nous vivons, où il ne nous reste plus que l'espérance de sa venue. Abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci, tout œil le verra. Il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Revenons en arrière et faisons un peu d'histoire. Revenons à Zacharie chapitre 12. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Combien nous sommes reconnaissants pour cette bonne révélation de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Nous allons mettre cela sous forme de livre aussi vite que possible pour les gens, afin que vous puissiez le lire et l'étudier tranquillement chez vous. Très bien, Zacharie 12, il faut que nous abordions cela dans un réel esprit de prière. Et je désire faire cela pour la gloire de Dieu. Zacharie 12, 9. Écoutez attentivement maintenant. Il parle de la venue du Seigneur. Et il arrivera en ce jour-là, c'est Zacharie qui prophétise, 487 ans avant la venue de Christ, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Pensez-y, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Quand l'Évangile retournera-t-il aux Juifs? Quand le temps des nations sera terminé, l'Évangile est prêt à aller aux Juifs. Si seulement je pouvais vous prédire une petite chose qui est sur le point de se passer ici même. Vous voyez, juste en ce jour, vous voyez, cela doit arriver. Nous le verrons dans les âges de l'Église. Et cette chose glorieuse est sur le point d'arriver et de se reporter jusqu'à Apocalypse 11 pour prendre ces deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout se met en place, tout est prêt. Ce message aux nations, tel que les Juifs l'ont apporté aux nations, les nations le ramèneront aux Juifs. Et l'enlèvement viendra. Mais souvenez-vous que ceci ici vient après la tribulation. Nous savons que l'Église ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela parce que la Bible le dit, voyez-vous. Il répandra sur la maison d'Israël, quoi? Le même Saint-Esprit, vous voyez, après que l'Église des nations soit partie. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimmon dans la vallée de Megiddon. Et le pays se lamentera chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, la famille de la maison de Nathan à part, et chaque famille à part. Lorsqu'ils verront, que se passera-t-il? Que se passera-t-il quand il viendra dans les nuées de gloire à sa seconde apparition, et quand ces Juifs qui l'ont percé? Vous savez qu'un autre passage de l'Écriture dit qu'ils lui demanderont « D'où viennent ces blessures ?» Il répondra « C'est dans la maison de mes amis que je les ai reçues. » Et ce sera un temps de lamentation, non seulement pour les Juifs qui l'ont rejeté en tant que Messie, mais aussi pour le reste des nations qui l'ont rejeté en tant que Messie pour leur temps. Ils pleureront et gémiront. Les vierges folles pleureront, elles qui représentent l'Église qui a refusé de mettre de l'huile dans sa lampe. 10 vierges sont sorties. Ce sont toutes de braves personnes, mais 5 d'entre elles seulement avaient de l'huile en réserve. Les 5 autres étaient aussi de braves personnes, mais elles avaient omis de prendre de l'huile dans leur vase. Elles furent jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. C'est pourquoi il est écrit « Il y aura des pleurs ». La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des cœurs brisés. Je vais vous donner encore un passage dans Genèse 45, si vous voulez le lire. J'aimerais vous lire comment Joseph s'est fait connaître aux siens. Nous prendrons cela pour vous montrer le type de ce qui va se passer en ce jour, puis nous relirons tout cela ensemble. Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui et cria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi ». Rappelez-vous bien ceci. Joseph, en se faisant reconnaître, cria « Faites sortir tout le monde !» Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il laissa éclater sa voix en pleurs, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Oh, il a dû crier très fort. Et Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'avez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Oh, combien c'est beau! Car voici 2 ans que la famine est dans le pays, et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Laissez-moi faire une comparaison avec Zacharie 12, juste un instant. Nous savons que par les types, si vous enseignez par les types, je pense que vous arriverez toujours juste. Quand Joseph est né, il était haï de ses frères. N'est-ce pas vrai? Maintenant, je voudrais vous montrer que Joseph représente l'Église remplie de l'Esprit. Joseph était haï de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Joseph n'y pouvait rien s'il avait des visions. Il n'y pouvait rien s'il avait des songes et qu'il pouvait les interpréter. C'est ce qui était en lui. Il ne pouvait rien montrer d'autre que ce qui était en lui. Eh bien, alors ses frères le haïssaient sans cause. Mais son père l'aimait parce que son père était prophète. Vous voyez comment cela se passa avec Jésus. Dieu aimait son Fils, mais ses frères, les pharisiens et les sadducéens, le haïssaient parce qu'il pouvait guérir les malades, prédire les choses, avoir des visions et interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le haïrent sans cause. Et que firent-ils à Joseph? Ils le jetèrent dans un puits et firent croire qu'il était mort. Ils apportèrent à son père la tunique de 7 couleurs ensanglantée. Il n'y a que 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, je pense que nous y viendrons un peu plus tard ce soir. L'arc-en-ciel au-dessus de Jésus avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et la forme d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est une alliance, et c'était l'alliance de Dieu avec Joseph. Alors ils mirent du sang sur sa tunique et le rapportèrent au Père, et il fut considéré comme mort. Mais il fut retiré du puits et vendu à Pharaon quelque part en Égypte, et un général le prit à son service. Et quand de mauvaises choses se passèrent, on le jeta en prison. Et là il prophétisa et dit à 2 hommes ce qui adviendrait de chacun d'eux. Il y avait un échanson et un panetier, et chacun d'eux avait fait un rêve. De là il fut élevé jusqu'à la droite de Pharaon, et personne ne pouvait atteindre Pharaon autrement que par Joseph. Observez cela, comment Joseph fut vendu aux Égyptiens. Tout ce qu'il fit était un type de Christ. Regardez cet échanson et ce panetier, tous les deux ont eu un songe. Rappelez-vous que Joseph était en prison. Lorsque Jésus était en prison, comment cela? Cloué à la croix, il y eut un sauvé et un perdu. Lorsque Joseph était en prison, un de ses compagnons fut sauvé et l'autre perdu. Notez qu'après que Jésus fut descendu de la croix, il fut élevé dans les cieux et s'assit à la droite du glorieux Esprit, Jéhovah. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi. Pas par des « Je vous salue Marie », ni par des saints ceci ou saints cela, mais par Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est vrai, ce corps précieux dans lequel Dieu est venu habiter parmi nous, prenant le nom de Dieu et Dieu prit le nom d'un homme. Considérez encore ceci. Au début, lorsqu'Adam... Je ne peux vraiment pas quitter ce sujet. J'ai le sentiment qu'il y en a quelque part qu'ils ne comprennent pas. Laissez-moi encore vous montrer quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui m'avertit de faire ceci. J'abandonne mon sujet une minute. Lorsque la nouvelle annonçant que le fils Adam avait été perdu atteignit la gloire, Dieu envoya-t-il un ange? Envoya-t-il un fils? Envoya-t-il quelqu'un d'autre? Non, il vint lui-même pour racheter son fils perdu. Alléluia! Dieu n'avait confiance qu'en lui-même. Dieu fut fait chair et habita parmi nous et racheta lui-même l'homme. La Bible dit « Nous sommes sauvés par le sang de Dieu ». Le Dieu immortel fut fait mortel dans le but d'ôter le péché d'être lui-même l'agneau, afin d'entrer dans la gloire, voilé, portant son propre sang devant lui, au-delà du voile. Joseph donc descendit en Égypte. Il fut élevé de sa prison à la droite de Pharaon, et il devint intendant. Et du temps de Joseph, tout prospéra. Quand Jésus reviendra, le désert lui-même refleurira comme une rose. Il est le fils de la prospérité, représenté en type par Joseph. Le général l'avait pris dans sa maison, où tout ce qu'il faisait réussissait. On le mit en prison et toute la prison prospéra. Tout ce qu'il faisait prospérait. Et quand il fut élevé au plus haut poste à la droite de Pharaon, tout en Égypte prospéra au-dessus de tout ce qui se faisait dans le monde. Quand il reviendra, ce sera une terre de prospérité. Les anciens déserts fleuriront et il y aura de la nourriture partout. Nous pourrons tous nous asseoir sous notre propre figuier, rire et nous réjouir et vivre pour toujours dans sa présence lorsqu'il reviendra comme roi. Il était fils de l'homme, un prophète. Amen. Il était fils de l'homme, sacrifice et sacrificateur. Il est fils de l'homme comme roi. Le fils de David assis sur le trône de sa majesté, fils de l'homme, il est Dieu manifesté comme fils de l'homme. Il est descendu et est devenu homme pour ôter les péchés du monde. Il est devenu homme pour être un prophète. Il est devenu homme pour être un sacrificateur. Il est devenu homme pour être un roi, roi du ciel, roi des saints, le roi éternel. Il a toujours été roi, il sera toujours roi, le roi éternel. Remarquez qu'au passage de Joseph, on sonnait de la trompette devant lui et on criait à genoux. Quoi qu'on fît, que l'on vendît un produit dans la rue ou autre chose, quand la trompette sonnait, on pliait le genou. Un homme tendait-il la main pour recevoir son argent, il devait s'agenouiller. Joseph arrivait. Oh, Et si l'eunuque était prêt à faire son travail, qu'avait-il à faire? Il devait s'arrêter. La trompette sonnait. Joseph arrivait. Un de ces jours, tout, même le temps, s'arrêtera quand la trompette de Dieu sonnera, que les morts en Christ ressusciteront et que le jour poindra éternel, radieux et beau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira et toute langue le confessera. Commencez maintenant. Certains péchés précèdent l'homme, d'autres le suivent. Mais remarquez maintenant ce qui arrive, comme c'est glorieux. Après que Joseph eut épousé une étrangère, il reçut une famille, Éphraïm et Manassé, ses fils. Avez-vous remarqué qu'à la fin de sa vie, Jacob voulut bénir Éphraïm et Manassé? Quand il commença à étendre les mains, Joseph mit Éphraïm à droite et Manassé à gauche pour que la main droite bénisse le plus âgé. Mais quand Jacob commença à prier, ses mains se croisèrent et il donna au plus jeune la bénédiction de la main droite au lieu de la donner à celui qui était à droite. Joseph dit, « Pas ainsi, père, tu as mis la bénédiction sur Éphraïm au lieu de Manassé. » Mais Jacob répondit, « Dieu a croisé mes mains. » Pourquoi cela ? Venant des Juifs, les plus anciens, les premiers que Dieu ait choisis, la bénédiction a passé au travers de la croix pour aller chercher l'épouse parmi les nations. La bénédiction est venue par la croix des Juifs aux nations. Ils ont rejeté la croix, c'est pourquoi il a pris une épouse d'entre les nations. Mais après que Joseph eut été maltraité par ses frères, ils n'eurent plus de communion avec lui pendant de nombreuses années. Maintenant, nous allons revenir à Zacharie, où nous voyons qu'il pleure et se lamente, que les familles se séparent les unes des autres, sortent et disent, « Comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu faire cela? Et ceux-là même qui l'ont percé diront, « Où as-tu reçu ces cicatrices, ces marques dans tes mains? Il viendra sur les nuées, et ceux-là même qui l'ont percé le verront, et chaque maison pleurera et se lamentera, ils ne sauront que faire. » Mais vous connaissez l'histoire. Quand Joseph vit ses frères, il fit comme s'il ne comprenait pas l'hébreu et prit un interprète. Joseph faisait semblant de ne pas parler hébreu, mais il voulait les éprouver. Et puis enfin un jour, ils emmenèrent son jeune frère. Avez-vous remarqué que c'est Benjamin qui enflamma l'âme de Joseph? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va enflammer son âme? L'âme de notre Joseph, Jésus. C'est cette jeune église qui a été dans un pays éloigné, qui a gardé les commandements de Dieu, qui est un peuple né de nouveau, rassemblé en Palestine et restauré à nouveau. Cette étoile de David à six branches, le plus ancien drapeau du monde. Une nation est née ces dernières années, c'est Israël. Les nations s'écroulent, Israël se réveille, signes annoncés par les prophètes. Les jours des nations sont comptés, remplis de tourments. Ô vous les dispersés, retournez à votre héritage. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes leur manque de frayeur. Regardez à votre cèpe, venez à la lumière. Soyez remplis de l'Esprit, que vos lampes soient nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité de Dieu. Jésus le Christ est notre Dieu. Gloire à Dieu. La révélation est venue. Nous marcherons sur les pas des apôtres, juste dans les mêmes endroits, car le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes leur manque de frayeur. Soyez remplis de l'Esprit, que vos lampes soient nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Oh, lorsque Joseph vit le petit Benjamin se tenir devant lui, c'était son petit frère. Là-bas, il avait vu le petit Benjamin encore si jeune. Les tribus des Juifs reviennent au lieu où les 144 000 se tiendront prêts à recevoir Christ. Lorsqu'ils le verront arriver, ils diront, « Voici notre Dieu que nous avons attendu. » Alors ils verront les marques dans ses mains et ils demanderont, « D'où viennent-elles ? » Il répondra, « Elles m'ont été faites dans la maison de mes amis. » Et ils gémiront et ils pleureront. Et chaque famille, les tribus de David, de Nephtali et les autres se sépareront, chaque famille à part, et ils pleureront sur eux-mêmes quand ils verront dans les airs celui qu'ils ont percé. Quel sera son message? Écoutez ce que dit Joseph. Autre chose encore, quand les enfants d'Israël se tinrent devant Joseph, il les regarda. et vit le jeune Benjamin. Il vit Éphraïm et tous les autres, Gad et tous les autres. Les 10 tribus se tenaient devant lui. Il les vit tous là. Il savait qu'ils étaient ses frères. Et aussitôt qu'il regarda le petit Benjamin, sa gorge commença à se serrer. Il savait que c'étaient les siens. Que dit-il ? Faites sortir tout le monde. Qu'arriva-t-il à sa femme et à ses enfants ? Ils entrèrent dans le palais. Où ira l'Église des nations lors de l'enlèvement ? Dans le palais. L'épouse, alléluia, l'épouse sera ôtée de la terre lors de l'enlèvement. Et quand il revient, son épouse n'est pas là, lorsqu'il se fait connaître à ses frères, ces juifs qui l'ont percé, eux qui l'ont rejeté. Mais sa femme et ses bien-aimés, ses proches amis, sa propre compagne que Dieu lui avait envoyée, tout cela était dans le palais. Et lorsque Joseph les regarda, il leur dit qu'ils étaient, eux-mêmes ne savaient pas qui il était. Ils se trouvaient à la merci de ce grand prince, et ils commencèrent à se dire les uns aux autres toutes les choses qu'ils avaient faites. Je crois que c'était Ruben qui a dit, « Nous n'aurions pas dû tuer notre frère Joseph, maintenant nous allons recevoir notre salaire. » Ruben dit, « Nous n'aurions pas dû tuer notre frère, parce que maintenant nous allons recevoir le salaire que nous méritons. » Et Joseph était là devant eux. Il ne pensait pas qu'il comprenait l'hébreu, mais il le comprenait. Certains pensent, « Je ne comprends rien en parlant en langue, mais lui comprend tout. » Oui, il comprend. Le royaume des nations est venu avec le parler en langue et les interprétations dans la tête d'or, la première tête avant sa chute. Qu'est-ce qui termina cette première dispensation des nations ? Une écriture en langues inconnues sur la muraille. Et il y avait là un homme qui pouvait l'interpréter et dire ce que cela signifiait. Cela se termine de la même façon. Amen. Cela commence et finit de la même façon. Ils pensaient que Joseph ne pouvait comprendre leur langue, mais ils la comprenaient. Et ils se disaient l'un l'autre, « Vous voyez ce qui nous arrive ?» Alors Joseph, voyant qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait, il voit leur chagrin et leur regret de l'avoir rejeté. Aussi a-t-il maintenant la gorge nouée. Il est prêt à retirer son église de la terre pour l'emporter dans la gloire. Puis il revient et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Que firent-ils ? Ruben et tous les autres commencèrent à pleurer et ils dirent, « Oh, oh !» Ils avaient peur et dirent, « C'est lui. Maintenant, c'en est fait de nous. Il va nous tuer. Nous savons que nous allons être détruits maintenant même, parce que c'est ce Joseph qui a été éloigné de nous si longtemps. C'est Joseph, notre frère. Maintenant, nous allons payer cher. » Mais il leur dit, « Ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes. Dieu a fait cela pour préserver la vie. » Qu'avait fait Dieu ? Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus ? Pour que nous, les nations, le peuple qu'il a appelé à cause de son nom, Dieu l'a fait pour préserver la vie de l'Église des nations, l'épouse. Toutes les tribus qui l'ont rejeté se lamenteront. Elles se cacheront dans les cavernes et les rochers. Elles fuiront vers les montagnes. Elles l'ont rejeté. Toutes les races de la terre gémiront à cause de lui. Et chaque famille en Israël se séparera. Les familles se sépareront les unes des autres et diront, « Pourquoi avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu le rejeter ? Comment ? Il se tient là, c'est le Dieu que nous attendions. Et le voilà, avec les marques des clous dans ses mains, et c'est nous qui avons fait cela. » C'est exactement ce que les frères de Joseph dirent lorsqu'ils revinrent. « C'est ce Joseph que nous avons vendu. » Il leur avait dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Oh, ils furent effrayés, se lamentèrent et gémirent, et coururent les uns vers les autres. Qu'allons-nous faire ? Il leur dit, « Ne soyez pas fâchés avec vous-mêmes, car c'est Dieu qui a fait tout cela. Dieu m'a envoyé devant vous. » Dieu a créé tous les hommes, les noirs, les blancs, les bruns, les jaunes. Tous les hommes, il a créé les nations, et il a créé les juifs. Il a tout créé, et tout est pour sa gloire. Les juifs devaient être rejetés afin qu'il y ait une épouse prise entre les nations. C'est la raison d'être de tous ces types. Ainsi donc, l'épouse des nations et ses rejetons avec elle, cette glorieuse épouse de Pentecôte, lavée dans le sang de l'agneau, ayant toute la puissance de résurrection en elle, s'élèvera un jour dans l'enlèvement, en un instant, en un clin d'œil, pour être dans la présence de Jésus, tandis qu'il reviendra, éloignant toute chose pour se faire connaître à ses frères. Considérez pour terminer ce que dit l'Écriture. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Il part de la seconde venue, pas de l'enlèvement, et ceux qui l'ont percé. Chapitre 1, verset 7. Et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Puis il donne cette citation tellement glorieuse. Qui est-il? Qui est-il? Celui qu'ils attendent. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le A et le Z de l'alphabet grec. Acte 4, 12, où Pierre dit, « Car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Non, je vous demande pardon, c'est dans Acte 2, 36, où il est dit, « Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Dans Jean 14, 8 et 9, Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment, toi, dis-tu, montre-nous le Père? Moi et le Père, nous sommes un. » Une fois je dis cela à une dame, elle me répondit, « Un instant, Monsieur Branham, vous et votre femme êtes également un. » Je lui dis, « Pas de la même façon. Je vous demande pardon. » « Mais voyez-vous, lui demandai-je ? Oui. Voyez-vous ma femme ? Non, répondit-elle. Je lui dis, alors ce n'est pas de la même façon. Il a dit, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Il n'y avait rien à ajouter à cela. » Lisons 1 Jean 5, versets 7 et 8. « Celui qui parle est le même que celui qui a écrit la révélation que Jésus lui a donnée. Il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole est le Fils, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit, et ils sont d'accord, non pas sont un, mais ils sont d'accord ensemble. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père ou le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Exact. Et l'eau, le sang et l'esprit, ce sont les éléments nécessaires pour entrer dans son corps. Lorsqu'une femme donne naissance à un bébé, quelle est la première chose qui arrive? La première chose, c'est l'eau, la seconde, c'est le sang. Est-ce exact? La chose suivante, c'est l'esprit. Le bébé prend son souffle et commence à respirer. Eau, sang et esprit, c'est ce qui constitue la naissance naturelle et aussi la naissance spirituelle. Le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ, la justification par la foi, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'eau. Qu'est-ce qui vient ensuite? Le sang qui sort d'elle représente la sanctification, la purification. C'est là où vous vous trompez, vous les Nazaréens. Vous êtes allés jusque-là, mais pas plus loin. Le vase qui est sanctifié sur l'autel est prêt pour le service, mais il n'est pas mis en service. Heureux ceux, c'est dans les béatitudes, qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le vase est sanctifié, c'est vrai. C'est comme les dix vierges. Le mot vierge signifie pure, sainte, sans mélange, sanctifiée. Cinq avaient de l'huile et cinq n'en avaient pas. Cinq avaient rempli toutes leurs réserves, et les autres en étaient restés à la sanctification. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Vous les baptistes, vous les presbytériens? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisés? Après avoir été sauvés et sanctifiés, on leur imposa les mains, et ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est vrai, eau, sang, esprit. Jésus est venu pour laver, purifier et sanctifier une église dans laquelle il puisse venir vivre. Son propre sang, il a donné son propre sang issu, né de Dieu, afin qu'il puisse nous purifier de notre naissance par le sexe et faire de nous un vase sanctifié, saint, dans lequel il puisse venir en personne. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je... pronom personnel, serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Tout le long du chemin, je serai avec vous et même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez pareillement. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Dieu dans l'Église, ô la divinité, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un. Vous pouvez être sauvé sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié et ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Avoir un esprit de sanctification sans être rempli. Votre cœur peut être sanctifié, purifié, sans pour autant être rempli par quelque chose. C'est à ce propos qu'il est dit, Lorsqu'un esprit impur quitte un homme, il va dans des lieux arides, puis il revient et trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc 11, 24 à 26. C'est ce qui vous est arrivé, pèlerins de la sainteté, nazaréens et les autres. Vous avez accepté, et lorsque le Saint-Esprit est venu, commençant à parler en langue et à donner des signes et des prodiges, vous avez dit que cela venait du diable, et vous avez blasphémé les œuvres de Dieu, appelant cela une chose impure. Et voyez-vous à quoi votre Église en est arrivée? Sortez-en! L'heure est venue où la révélation de Jésus est enseignée, où Dieu est révélé dans la puissance de ses manifestations du Saint-Esprit. Amen. Le jour de la rédemption est proche. Maintenant, pour ce qui est de la divinité en lui, lisons 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Oh, et cela continue encore et encore. Mais où en sommes-nous? À la fin du 8e verset. Ce soir, nous commencerons au 9e verset, la vision de Patmos. Oh, il y a de grandes choses en réserve pour nous. L'aimez-vous? Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. L'aimez-vous vraiment? Dieu s'est-il fait connaître à vous, révélant qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair pour ôter le péché? Il s'est révélé dans les derniers jours au milieu de son Église, se faisant connaître. Au sujet de ces choses même qui se passent dans l'Église, attendez la fin de ce message, et vous verrez si la Bible ne dit pas que ces choses devaient arriver. Exactement. Voyez si elles n'arrivent pas exactement dans l'âge d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire, et des âges suivants dans chaque âge. La Bible nous a dit ce que ferait Luther, ce que ferait Wesley, et comment cette dénomination pentecôtiste entrerait dans la tiédeur de la Odyssée. Mais c'est du milieu de cela qu'il tirerait son peuple. C'est vrai, c'est exactement cela. Nous sommes à la fin. Oh, je suis si heureux. Oh, je me suis vu moi-même en vision, m'élevant et regardant mes amis et toutes ces choses, et voyant le monde et le chaos dans lequel il se trouve. Pensez que la venue du Seigneur est si proche. Nous sommes à la fin de l'âge. Le cœur des hommes défaille de terreur. Partout dans le monde, tout le monde au téléphone et à la radio, on entend sans arrêt. Soyez prêts pour un raid aérien, prenez ceci et cela, descendez dans les caves. Comment allez-vous vous mettre à l'abri? On ne peut pas se mettre à l'abri de cela. Cette chose ira à une profondeur de 150 pieds et sur 150 000 carrés. Si la bombe tombait ici, la secousse serait telle qu'Indianapolis même serait détruite. Si cette bombe tombait ici à Louisville, Indianapolis ne serait plus qu'un amas de ruines. On ne sait pas ce qu'ils ont encore en réserve à part cela. Ce n'est pas nécessairement la Russie qui fera cela. Cuba peut le faire. N'importe quel petit pays grand comme Alcatraz suffirait pour couvrir le monde entier. La seule chose qu'ils aient à faire est de pointer juste et de tirer une ficelle. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous n'avez besoin que d'un fanatique entre les mains du diable pour le faire. C'est parfaitement exact. Il le fera, et alors tout sera terminé. Tout sera alors terminé. Mais oh, laissez-moi vous donner cette chose bénie. Quand nous voyons cela si proche, quand nous voyons que cela pourrait arriver avant demain matin, souvenez-vous que l'Église entre dans la maison avant que ces choses n'arrivent. L'enlèvement aura lieu avant. Maintenant, pour que vous ne soyez pas tout embrouillés, souvenez-vous que Jésus a dit « Ce qui arriva au jour de Noé, ce qui arriva au jour de Lot. » Souvenez-vous qu'avant qu'une seule goutte de pluie tombe, Noé était dans l'arche. Vous voyez, Noé était dans l'arche. Il fut transporté au travers. Noé était un type des Juifs, mais Énoch est entré dans la maison sans passer par la mort. Et quand Noé a vu partir Enoch, il a su qu'il était temps de commencer à s'occuper de cette arche. Bien, pour Noé, c'était le signe lorsque Enoch entra à la maison. Et dès que l'Église des nations est enlevée, alors il se fait connaître à Israël. Vous voyez, c'est vrai. Souvenez-vous qu'au jour de Lot, comme Jésus l'a dit, avant que la moindre flamme ne touche la terre, les anges dirent « Hâtez-vous, vite, sortez de là, car nous ne pouvons rien faire tant que vous n'êtes pas partis. » Lorsque le feu tomba, Lot et sa famille étaient loin. De même, l'enlèvement arrivera avant le début de la tribulation. Pour ce qui est de la tribulation, beaucoup de gens sont dans la confusion, mais nous rétablirons cela cette semaine, Dieu voulant, avec l'aide du Seigneur. Vous attendez une période de grande tribulation. Cela est donné en type dans la Bible par les jours d'épreuve de Jacob, vous voyez, lorsqu'il était troublé. Cela n'a rien à voir avec les nations. Il n'y a aucun type de cela dans la Bible. L'Église des nations est enlevée. Et vous vous attendez à voir l'eau se transformer en sang et des choses comme cela, choses qui doivent revenir sur Israël avec Moïse et Élie. Quand Élie revient pour la quatrième fois, aucun d'eux ne mourut, ou si Moïse est mort, ils n'ont pas su où il avait été enseveli. Entre-temps, il devait être ressuscité, parce que sur la montagne de la Transfiguration, on l'a vu parler à Jésus. N'est-ce pas vrai? Donc ils reviendront et seront mis à mort, et ils seront étendus sur la place spirituellement appelée Sodome, là où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Ils ont prêché aux Juifs, ils avaient le pouvoir de frapper la terre, de fermer les cieux et de faire des choses semblables. À la fin du ministère de l'Église des Nations, celle-ci s'en ira à la maison, et ce ministère continuera parce qu'il est relié à cela. Alors tombera le jugement de toutes choses. Les deux tiers de la terre seront frappés, et tout le reste. Quand ces corps morts des deux prophètes resteront étendus 3 jours sur la place, observez de quelle nature ils sont. Voyez ces photos qu'on m'a ramenées d'Amérique du Sud, lorsqu'ils ont tué ce missionnaire pentecôtiste et sa femme. On les voit là, étendus dans la rue. Il est là avec 2 petits-enfants. Une petite fille dont le ventre est gonflé comme cela. Ils ne voulurent même pas les enterrer. Pendant 3 ou 4 jours, ils leur crachèrent dessus lorsqu'ils passaient près d'eux. C'est frère Cobb qui a pris ces photos. Je les ai à la maison, vous voyez. C'est leur façon de faire. Ensuite, ils s'envoient des présents les uns aux autres. Considérez ces types dans la Bible, et vous verrez quelle est l'Église qui fera cela. C'est vrai. Et cela va bientôt arriver, et cela se faufile comme un serpent maintenant même. Avec toute la ruse possible, nous voyons les signes qui annoncent ces choses. Pensez à la prophétie que le Seigneur me donna en 1933, me disant comment cela se passerait. Ils accorderont aux femmes le droit de vote, et en votant, elles éliront la mauvaise personne. 7 choses furent données, et 5 d'entre elles se sont déjà accomplies. La chose suivante était une grande femme, une église, une puissance ou quelque chose qui prenait le pouvoir aux États-Unis et qui gouvernait. Puis je vis comme des cendres répandues lorsque cela arrivait à sa fin. C'était le temps de la fin. Il me fut dit, ils auront une voiture qui se conduira elle-même, qui n'aura pas besoin de conducteur. Ils viennent de la réaliser. 11 ans avant, le Saint-Esprit me dit, cela est noté sur le papier, et cela ne peut être nié. Le voici écrit comme le Saint-Esprit l'a dit. 11 ans avant que la ligne Maginot soit construite, je disais, le président Roosevelt sera le mauvais génie de l'Amérique. Et c'est bien ce qui arriva. Ce n'est pas pour blesser vos sentiments à vous, les démocrates, mais je vous le dis maintenant, ce n'est ni d'un démocrate ni d'un républicain, c'est de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous parlons. Je ne suis ni démocrate ni républicain, je suis chrétien. Ici même, l'autre jour, si vous voulez voir quelle bande de renégats tous ces gens sont, voyez comment ils ont faussé ces machines à voter, de sorte que chaque fois que vous votiez pour M. Nixon, vous donniez une voix à l'autre en même temps. Oh, G. Edgar Hoover a retiré les machines. Combien l'ont lu? Oui, c'est sûr, c'est dans tous les journaux, les informations et tout le reste. Vous voyez où nous en sommes? Il n'y a plus rien d'honnête en dehors de Christ. Amen. Oh, ce vieux livre béni, c'est cela. C'est le seul qui vous dira qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Oui, ce vieux livre béni. Oh, cela me fait l'aimer, pas vous? Foi dans le Père. Foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, ces 3 sont un. Les démons trembleront, les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah ébranle tout. Amen. Quel jour glorieux se trouve devant nous, chers amis. La révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à son ange qui est venu l'annoncer à Jean, afin qu'il puisse faire connaître aux âges de l'Église les choses qui sont en réserve pour nous. Puisse le Seigneur nous bénir maintenant, tandis que nous nous levons, et que celui qui tient le piano nous donne un petit accord, s'il vous plaît. Nous chanterons « Prends le nom de Jésus avec toi ». Maintenant, écoutez, il y a sans doute ce matin des étrangers parmi nous dans ce tabernacle. Je voudrais que vous leur serriez la main. Invitez-les à aller chez vous, et tout ce que vous pouvez, et que chacun se sente le bienvenu. Je voudrais bien que vous le fassiez tous. Et souvenez-vous que la réunion commencera à 7h ce soir. Et à 7h30, je parlerai sur la vision de Patmos. Demain soir, le Seigneur voulant, je parlerai sur le premier âge de l'Église, l'âge d'Éphèse. Nous allons chanter maintenant « Prends le nom de Jésus avec toi ». C'est le chant de clôture de notre petit tabernacle. Que tout le monde chante maintenant. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et de chagrin. Il te réjouira et te consolera. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Maintenant, avant de chanter la strophe suivante, je veux que les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, tendent la main à ceux qui les entourent. Serrez la main de quelqu'un devant vous, à côté de vous, derrière vous, disant, « Pèlerin chrétien, mon ami, je suis heureux d'être avec toi ce matin, heureux de communier avec toi autour des choses de Dieu. Et je sais que nous avons passé un bon moment et j'espère te revoir ici ce soir. » Quelque chose comme cela, en serrant les mains des gens, devant vous, derrière vous, autour de vous, se courbant au nom de Jésus. À ce soir, frère. Roi des rois dans le ciel, nous le couronnerons. Quand notre voyage sera terminé, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. À bientôt. À bientôt. À bientôt aux pieds de Jésus. À bientôt. À bientôt. Dieu soit avec toi. Jusqu'au revoir. Et maintenant, en baissant nos têtes, à bientôt. À bientôt. Frère Neville termine par la prière, note de l'éditeur.